Europe 1, il est 18h.
La sécurité du quartier est évidemment renforcée. Il y a aussi un renfort des dispositifs de protection des lieux symboliques, Hypercacher, Bataclan.
Plusieurs lieux sous haute surveillance dans Paris, annonce la ministre Marlène Schiappa au lendemain de l'attaque terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Une attaque sanglante assumée en garde à vue par l'assaillant qui dit que c'est la nouvelle publication des caricatures qui l'a motivé pour passer à l'acte.
La fermeture demain soir des bars et des restaurants à Marseille, donc pour freiner l'épidémie de coronavirus. Cette mesure ne passe toujours pas auprès des patrons d'établissements, les entendra.
Et puis la mort de l'écrivain Denis Tillinac à 73 ans, fidèle des fidèles de Jacques Chirac, disparu il y a un an, jour pour jour, avec qui il partageait l'amour de la Corrèze.
Voilà ce qui vous attend jusqu'à 20h sur Europe 1. Bienvenue à vous tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc Fabienne Lemoyle, l'assaillant qui a mené l'attaque terroriste hier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, assume son acte.
Toujours en garde à vue, il a clairement dit aux enquêteurs Guillaume Bier que c'est la republication des caricatures de Mahomet qui l'ont motivé pour passer à l'acte.
Oui, d'après nos informations, le principal suspect a livré des explications complètes et détaillées aux enquêteurs. Il assume parfaitement son geste, cette attaque sanglante. Tout était prémédité et l'élément déclencheur, c'est effectivement la nouvelle publication des caricatures de Mahomet au début du mois. Il explique aux policiers qu'il a découvert cela dans une vidéo sur Internet il y a quelques jours et qu'il aurait voulu venger le prophète en s'attaquant à Charlie Hebdo. D'après ses déclarations en garde à vue, il aurait envisagé dans un premier temps de commettre un incendie volontaire. Puis il s'est ravisé et a finalement opté pour une attaque à l'arme blanche. Il raconte même qu'il a fait des repérages avant de passer à l'action. Ce qui ressort de tout cela, c'est bien évidemment la motivation terroriste de cet homme, dont la radicalisation religieuse n'avait pourtant jamais été soupçonnée. Ça témoigne aussi de son « amateurisme », entre guillemets, un assaillant qui croyait sincèrement s'en prendre à des salariés de Charlie Hebdo sans savoir qu'en fait, la rédaction de l'hebdomadaire a quitté cet immeuble depuis 4 ans déjà. En ce moment, ces interrogatoires se poursuivent. D'autres personnes sont aussi en garde à vue, 8 autres personnes au total, parmi lesquelles le frère du suspect ainsi que son entourage, ses colocataires. Ils ne sont pas forcément complices, mais ils sont tout de même en garde à vue pour être longuement questionnés sur l'auteur présumé de cette attaque.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Alors l'une des questions qui monte depuis cette attaque, Fabienne Lemoyle, est la suivante. A-t-on sous-évalué la menace ?
Et d'autant plus que se tient en ce moment le procès des attentats de janvier 2015 et que depuis la republication des caricatures de Mahomet, il y a eu des menaces proférées par Al-Qaïda. Et cette question, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a posée lui-même hier soir sur France 2. Il a demandé à la préfecture de police pourquoi notamment les abords des anciens locaux de Charlie Hebdo n'étaient pas sécurisés d'intervention.
Eh bien, en début d'après-midi, la préfecture de police de Paris a répondu à Beauvau. L'ancien immeuble de Charlie Hebdo ne faisait l'objet d'aucune menace connue. Un début de polémique qui a sûrement valu la visite improvisée de Jean Castex ce matin dans les locaux de la préfecture de police pour remercier les forces de l'ordre mobilisées, saluer leur efficacité, leur rapidité. Et ce soir, sur Europe 1, la ministre Marlène Schiappa assure que la protection des lieux visés est renforcée, comme celle de tous les lieux sensibles.
La sécurité du quartier est évidemment renforcée, mais je voudrais dire qu'il y a aussi une prise en compte et un renfort des dispositifs de protection des lieux symboliques, Hypercacher, Bataclan. Notamment, le ministre de l'Intérieur a renforcé la sécurisation des lieux de culte juif à l'approche de la fête de Kippour, qui commence dimanche soir et qui s'achève lundi soir.
Quant à l'environnement de la rédaction de Charlie Hebdo, la ministre assure qu'elle fait l'objet d'une sécurisation renforcée. Le siège actuel, dont l'adresse est tenue secrète, était d'ailleurs déjà surveillé par une garde statique depuis le début du procès. Quant aux personnalités du journal, leur protection a là aussi été renforcée, et ce, depuis plusieurs jours avant même cette nouvelle attaque.
Hélène Terzian.
C'est donc demain soir que les restaurants et les cafés vont fermer pour 2 semaines à Marseille. Une fermeture qui fait partie des mesures qui visent à limiter les contaminations.
Et alors que 40% des lits en réanimation à Marseille sont occupés désormais par des patients Covid et que le seuil d'alerte est à 30%, mais cette fermeture, imposée par les autorités, ne passe pas. Écoutez Bernard Marty, le président de l'UMIH des Bouches-du-Rhône, l'UMIH qui représente ces établissements.
Nous, on a proposé de la prise de température à l'entrée des établissements. On a proposé un cahier de rappel pour nos clients si jamais il y avait un cluster. Je vais vous dire ce que j'ai proposé aux autorités. Je leur ai dit, soyez plus durs avec les restaurateurs, les cafetiers et les bars. Faites des contrôles de police et fermez ceux qui le méritent, s'il y en a. Par contre, faites partout pareil dans la ville, hein, dans les transports, dans les grandes surfaces, dans tous les lieux de vie. Il y aura un déplacement, hein. Il y aura un déplacement qui s'opérera. Hein. Si on n'est pas à Marseille, on ira à Cassis. Si on n'est pas à Cassis, on ira au Bagne. Les gens, ils sortiront quand même. Nous, on demande au ministre de revoir sa copie et de revenir en arrière. Alors, on nous propose effectivement une réunion en fin de semaine pour savoir si effectivement on poursuit pour la deuxième semaine ou pas. Nous, on dit simplement qu'on réfléchisse le plus rapidement possible et qu'on ne ferme pas du tout.
Bernard Marty, le président de l'UMIH des Bouches-du-Rhône avec Mathieu Bock.
Et on reparlera notamment de cette clause de revoyure dans une semaine avec la deuxième adjointe de la nouvelle maire de Marseille, Michèle Rubirola. C'est Samia Ghali qui est donc notre invitée dans 10 minutes sur Europe 1. Il était l'un des fidèles de Jacques Chirac. Vous connaissiez son nom, Denis Tillinac. Il partageait avec lui notamment son amour pour la Corrèze et la littérature. L'écrivain est mort à 73 ans, Fabienne.
Et coïncidence, il disparaît un an, jour pour jour, après le décès de l'ancien président. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui était aussi son amie, lui rend hommage ce soir sur Europe 1.
C'était une immense tristesse d'apprendre la disparition si brutale de mon ami Denis Tillinac. Vous savez qu'il avait un attachement viscéral à la France, qu'il avait un attachement viscéral au gaullisme, au catholicisme. C'était quelqu'un qui aimait la France, mais avec beaucoup de générosité et de bienveillance. Il n'y avait en lui aucune haine de l'autre. Et je crois que c'était ce qu'il distinguait parfois de certains autres patriotes. Et il avait ce panache d'un Cyrano de Bergerac et surtout un amour, une joie de vivre incroyable. Il a vécu comme un mousquetaire. Il aimait les bons vins, il aimait la bonne chair, il fumait beaucoup. Il ne s'est jamais coulé dans le moule hygiéniste du temps. Il a vécu pleinement, comme il voulait. C'était un homme libre.
Et Valérie Pécresse avec Caroline Baudry.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et Fabienne Lemoyle pour vous informer, il est 18h08 sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Un an après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, c'est toujours la colère, Fabienne, qui domine chez certains habitants.
Colère pour dénoncer le manque de transparence des autorités alors que plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont été détruits par le feu il y a un an. Colère exprimée cet après-midi dans les rues de Rouen par plusieurs centaines de manifestants. Diane Berger.
Lubrizol a pollué, Lubrizol doit payer, c'est le mot d'ordre scandé par le cortège parti depuis les grilles même de l'usine. Parmi les manifestants, Patrick, un retraité rouennais encore marqué par l'immense fumée noire d'il y a un an.
J'ai pas du tout envie de le revivre et je voudrais pas non plus que mes enfants, mes petits-enfants et personne ne le revive. Ça pétait juste à côté de chez nous, on n'a aucune information et aujourd'hui si on est là c'est parce qu'en fin de compte on a... toujours pas de réponse.
Quelques mètres plus loin, Florence acquiesce, beaucoup de questions sans réponse et surtout peu d'actions concrètes.
Je trouve qu'en termes de prévention, tout ce qu'on nous a annoncé avant-hier, il n'y avait pas de prévention. On va mettre en place un outil pour nous prévenir tous en même temps. Mais ça veut dire que l'accident a déjà eu lieu.
Beaucoup de Normands inquiets ici donc, mais pas seulement. Léonore est venue exprès de Paris car pour elle, Lubrizol, ça concerne tout le monde.
En fait, il y a plein de sites qui sont classés Céveso, qui sont mal inspectés. Et donc, en fait, des Lubrizol, il peut y en avoir partout en France, partout dans le monde. Moi, ça m'inquiète pour la vie de mes autres humains autour de moi et de moi-même.
Alors, comme cette jeune femme, ils étaient quelques centaines à marcher jusqu'au palais de justice de Rouen cet après-midi pour dénoncer la situation.
Diane Berger à Rouen pour Europe 1. À l'étranger, c'est ce soir à 23h française que Donald Trump va annoncer le nom de sa candidate pour succéder à la doyenne de la Cour suprême décédée il y a une semaine. On en parle dans le journal de 19h.
Des chutes de neige dans les Alpes, c'est donc du côté français que ça se passe. Ça paraît à peine croyable alors que nous sommes quoi en septembre ? Nous sommes le 26 septembre, Fabienne.
Exactement, et du coup certains, figurez-vous, ont même chaussé de ski comme Romuald dans le Beaufortin.
Ce matin, avec une voisine, on est monté dans la station de ski des Saisies. Bien sûr, elle était fermée. Et on a skié au milieu des champs. Plus on montait, plus on passait brutalement d'un environnement encore estival, avec les feuilles vertes sur les arbres, à un environnement complètement hivernal. Et seules les vaches, finalement, en plein milieu des prés, avec de la neige à mi-hauteur, nous rappelaient qu'on n'était pas encore en hiver. Nous étions dans une espèce d'excitation enfantine. On a pu descendre dans une neige qui était de très très bonne qualité avant que les premiers rayons du soleil ne la transforment. C'est encore plus surprenant du fait que la semaine dernière, on avait encore entre 30 et 33 degrés en vallée savoyarde. Donc vraiment quelque chose de surprenant.
Voilà, surprenant. Et puis il faut noter qu'effectivement, les stations de ski ne sont pas encore ouvertes. Donc en fait, il faut grimper à pied en plus pour pouvoir skier.
C'est bien, ça c'est
un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff.
Oh, voilà, il part tout ailleurs. Des températures dignes de la Toussaint. Vous l'avez constaté un peu partout, chers amis auditeurs. Merci Fabienne Lemoyle. Et à demain midi pour ce qui vous concerne. Valérie Darmon est avec nous. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous.
Si vous le permettez, puisqu'on reste dans la neige et dans le ski, parlons température parce que ça s'est vraiment, vraiment refroidi.
Oh que oui, et ça va continuer de se refroidir demain avec des maximales entre 7 à Aurillac et 19 à Marseille, 10 annoncés à Saint-Étienne, 12 à Dijon, 13 à Embrun, 14 à Angers, 15 seulement au plus chaud de l'après-midi de demain à Paris, 16 à La Rochelle, 17 à Montpellier et 18 à Lorient. Et il est tombé aussi 20 à 30 cm de neige, on l'entendait à l'instant, à partir de 1200 mètres d'altitude et jusqu'à 50 à partir de 2000 mètres et sur l'ensemble des massifs en plus, particulièrement tout de même en Isère.
En Isère, oui. Vous rajoutez à cela pas mal de pluie, dans le sud-ouest en particulier, Valérie ?
Eh oui, absolument. Alors ce soir, les pluies qui se renforcent sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, on a eu un temps d'accalmie cet après-midi. Elles vont s'étendre jusqu'en limite de l'Ariège. Météo France attend 3 semaines à 1 mois de précipitations sur l'ouest des Pyrénées, l'équivalent de ces 3 semaines à 1 mois sur l'ouest des Pyrénées d'ici demain matin. Cette nuit, toutes les vigilances vont être levées aux alentours de 3h du matin. On a toujours ces deux départements en vigilance sur les Pyrénées-Atlantiques et sur les Hautes-Pyrénées. Et puis demain, pour le reste du pays, on a une perturbation qui descend de la Belgique pour envahir un grand quart nord-est, c'est-à-dire Champagne, Ardennes, Alsace, Lorraine, Pas-de-Calais, comprenant aussi le bassin parisien, alors qu'aujourd'hui on n'était pas trop mal loti avec une alternance, et puis le massif central, eh bien, il va pleuvoir sur toutes ces régions, toute la journée quasiment, avec ces températures, vous le disiez, dignes de la Toussaint, mais en allant vers l'Atlantique et vers la Méditerranée, en revanche ça s'améliore et surtout le temps sera plus sec.
Merci Valérie et à tout à l'heure 18h30 pour nous éclairer. Le sport, bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Prenons tout de suite pour parler foot la direction du stade Geoffroy Guichard. C'est la 5e journée de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne affronte le stade Rennais en ce moment.
Oui, un choc au sommet entre le leader et le deuxième de Ligue 1. Tony Perel, vous êtes sur place et pour le moment, ça se passe pas très bien pour les Stéphanois.
Non, et du coup, Julien, ça se passe très bien pour les Rennais. Vous l'avez dit, ce choc de très haut de tableau entre les deux co-leaders avant cette 5e journée, puisque Lille avait potentiellement récupéré la place de leader hier en s'imposant. Et donc, si le score en restait là, on rappelle 2-0 pour les Rennais, les joueurs de Julien Stéphan prendraient seuls la tête du championnat. Le but rennais est signé à Guerre de la tête. L'ouverture du score, c'était sur corner peu après la demi-heure de jeu. C'était plutôt logique sur ce qu'on avait vu en première mi-temps. Les Bretons ont globalement dominé le premier acte, même si Saint-Etienne a eu quelques petites situations contre-attaque. Et puis Nordin a vu son but égalisateur refusé pour un très léger hors-jeu au retour des vestiaires. Les Verts étaient mieux dans cette seconde mi-temps et finalement, il y a quelques minutes, Rennes a marqué le deuxième but grâce à Guirassy, un petit retourné dans les 6 mètres de Jesse Moulin, le portier des Verts. Le break est donc fait pour les Bretons. Rennes tient pour l'instant son joli coup. Il reste une grosse demi-heure à tenir. Mais si la SS parvenait à revenir dans le match et à égaliser, les Verts reprendraient le fauteuil de leader. C'est tout l'enjeu de cette fin de match. Réponse dans 30 bonnes minutes.
Oui, il va falloir marquer 2 buts quand même pour revenir sur cette équipe de Rennes. Merci beaucoup Anthony Perel, qu'on retrouvera à 19h. Et puis ce soir, il y a un autre match à 21h. C'est l'Olympique de Marseille qui affrontera Metz. Match bien sûr à suivre sur Europe 1.
Et juste avant la rencontre, le retour de l'émission face aux auditeurs avec un invité très spécial sur Europe ce soir, le président de la Fédération Française de Foot, Noël Le Graët.
Oui, le patron du foot français reviendra sur tous les sujets d'actualité, mais aussi sur son potentiel successeur qui a pour initiale Dédé.
Alors Didier Deschamps, je lui ai dit, il devrait un jour, parce que lui, il a bien entendu la connaissance du foot, même pas, il sait compter, et ça vous le savez bien, et je le sais aussi. Les sponsors, il sait faire. La communication, il est très bon. Donc il a toutes des qualités. Je le taquine souvent, je le taquine un peu moins parce que je sens que c'est difficile, en tout cas dans les 2 ans qui viennent.
Voilà, Didier Deschamps qui a encore pas mal de choses à faire du côté de l'équipe de France. C'était Noël Le Graët face aux auditeurs, donc avec Lionel Rousseau, ce soir sur Europe 1 entre 20h et 21h.
On va parler du tennis parce que nous sommes à la veille du début de Roland-Garros. Et comme c'est le cas chaque année, parmi les chances, on surveillera côté français. Gaël, mon fils, on surveillera du moins.
Exactement, avec les absences de Joe Wilfried Tsonga, de Lucas Pouille, les espoirs vont donc reposer sur les épaules du numéro 9 mondial qui, malgré un retour à la compétition compliquée, eh bien, espère retrouver des sensations dans des conditions très particulières entre la bulle sanitaire pour les joueurs, les tests à répétition et seulement 1000 spectateurs autorisés.
C'est sûr que je suis un joueur qui aime bien avoir de l'ambiance, du public, et que là, on n'en a pas, donc ça fait un peu bizarre. Après, les restrictions de rester dans sa chambre, ça me dérange peu. Je ne suis pas un joueur qui sort énormément dans les villes où on est, donc ça, ça me dérange peu. Les tests, bien sûr qu'il faut se faire tester. Bon, ce n'est pas agréable, mais voilà, ça fait partie du jeu, de l'adaptation ici. J'espère monter en puissance dans mon jeu, monter en puissance dans mes sensations, de moins me préoccuper, on va dire, de ces changements et essayer de vraiment sortir le meilleur de moi-même.
Gaël, mon fils, au micro de Corinne Boulou, la Monf qui n'entrera en lice qu'en début de semaine. Demain, 7 Français seront sur les cours, dont Benoît Paire et Caroline Garcia. Et une affiche de rêve, Wendy, pour le premier tour, le Suisse Stanislas Wawrinka contre le Britannique Andy Murray. On le rappelle, Europe 1, la radio partenaire de Roland-Garros qui vous fera vivre donc toute la quinzaine Porte d'Auteuil.
Absolument. Dans le reste de l'actualité sportive, on va dire un petit mot de rugby. Oui. Et puis on connaît, en l'occurrence, l'affiche de la finale de la Champions Cup.
On aurait pu rêver d'une finale franco-française. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Le Racing 92 s'est qualifié. Elle affrontera Exeter, victoire des Racing Wings 19-15 contre les Saracens. Et donc, dans l'autre rencontre, eh bien, Toulouse s'incline donc face à Exeter, 28 à 18.
À tout à l'heure, 19h10, Julien Froment sur Europe 1. C'était les sports.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 18h19, si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute du Grand Journal sur Europe 1 en ce samedi 26 septembre. À Marseille, les bars et les restaurants qui devaient fermer dès aujourd'hui ont obtenu hier d'écouler leur stock jusqu'à demain soir et pour 15 jours. Mesure temporaire, mesure nécessaire, a redit hier en déplacement sur place donc le ministre Olivier Véran. Bonsoir Samia Ghali.
Bonsoir.
Vous êtes deuxième adjointe au maire de Marseille et vous avez tenu des propos très contesté, en demandant à la police municipale qu'elle ne fasse pas de contrôle chez les restaurateurs et dans les bars qui ne se soumettra pas à la fermeture ce week-end. À partir de lundi, demandez-vous, Samia Ghali, à chacun de respecter cette décision d'État.
Chaque restaurateur est responsable de son restaurant et de son établissement et chacun fera ce qu'il a envie de faire. En aucun cas, je n'ai ni à leur demander d'ouvrir ni à leur demander de fermer.
Mais c'est une mesure qui est censée s'appliquer sur l'essentiel de votre territoire ?
Oui, mais j'estime qu'il y a quand même juste un déséquilibre entre ce qu'on propose, ce qu'on demande à Paris dans la même situation et ce qu'on demande à Marseille aux restaurateurs à qui on a, depuis le mois d'août, on les a harcelés en leur demandant un moment de fermer à 22 heures, ensuite à minuit, ensuite, vous voyez, donc c'est quand même compliqué, ça perturbe et la clientèle et les restaurateurs eux-mêmes, ils étaient nombreux hier à manifester et à dire leur colère, leur désarroi et tout simplement leur détresse. Il faut aussi les comprendre, ils sont dans une situation économique qui va être très compliquée et de rajouter 15 jours de fermeture totale, ben, je peux vous dire que c'est pas si évident que ça.
Bien sûr, on vous suit là-dessus, mais on conçoit aussi que le rôle d'un élu, quel qu'il soit, c'est d'être le garant de la sécurité et de la santé publique, ça m'égale.
Alors, oui, sauf que comment vous expliquez-vous que quand vous allez dans le métro, quand vous allez dans les bus qui sont bondés, les gens sont collés les uns aux autres,
mais masqués,
où on nettoie pas. Mais dans les restaurants, vous savez, les gens qui sont debout sont masqués, ils sont assis, ils sont plus masqués. Mais partout, dans les bus, dans les métros, les gens touchent les rampes, touchent tout. Donc, pour autant, on considère pas que les métros et les transports en commun peuvent être des lieux qui peuvent véhiculer le Covid-19. C'est comme d'un ridicule sans nom.
Mais ça veut dire donc, quoi, Samia Ghali, que dès lundi, les bars, les restaurants de votre ville pourront ouvrir clandestinement et faire absolument ce qu'ils le souhaitent?
J'ai pas dit ça, mais ils sont aujourd'hui très en colère, très remontés, et que s'il est possible que certains, effectivement, restent ouverts.
Vous demandez à la police municipale de ne pas contrôler, de ne pas sanctionner?
Écoutez, la police municipale, elle a d'autres champs. Et croyez-moi, à Marseille, il y a beaucoup... l'État est capable de mobiliser autant de policiers pour verbaliser des restaurateurs. Alors que de l'autre côté, on a des jeunes qui n'arrêtent pas de faire des rodos et rodéos sauvages partout dans Marseille. Et qu'il n'y a jamais un policier qui les interpelle. Jamais. Alors que le cadre juridique le permet. Il y a des problèmes, on a des problèmes de délinquance énormes. Des meurtres, qu'il y a eu des tentatives de meurtre impressionnantes sur la ville. Rien que la semaine dernière, on en a eu 6 en 4 jours. Et si avec ça, l'État considère que seule la police doit aller verbaliser les restaurateurs, alors oui, je dis qu'il y a un problème dans notre pays de savoir où on met le curseur.
Oui, donc la priorité pour vous de la police n'est pas aujourd'hui la politique sanitaire, c'est de lutter contre la délinquance, notamment sur votre territoire.
Si leur politique, c'est d'aller seulement vérifier les gens qui ont le masque, pas le masque, mettre des PV aux restaurateurs, je dis non, je dis que je pense que la police a autre chose à faire que ça, voilà.
Alors,
c'est tout.
On a envie de comprendre, temps, oui, Samia Ghali, mais le respect de la loi, le respect de la règle, parce que c'est à partir de cela que le civisme des Français, où qu'ils soient sur le territoire, peut s'exercer.
Mais vous ne croyez pas qu'il y a peut-être un problème de compréhension de la part des Français? Oui, bien sûr, parce que tout simplement, les messages de l'État sont incompréhensibles. La réalité aujourd'hui, c'est que M. Véran, il est allé à la Timone. Mais j'espère qu'il est allé voir le pavillon enfant où il pleuvait mardi à l'intérieur de l'hôpital. Les vidéos, elles sont... Mais vous savez, à un moment...
L'état de l'hôpital qui se dégrade, c'est un sujet et on en parle suffisamment. Lutte contre le Covid.
Oui, mais si on veut lutter contre le Covid, il fallait ouvrir des lits supplémentaires pour la réanimation. Sauf qu'on a eu tout l'été pour le faire, depuis le mois de juin, quand on est sorti du confinement. On aurait pu avoir tout l'été pour préparer tout cela et ça n'a pas été fait. À qui la faute? Et aujourd'hui, on veut la faire payer à des commerçants,
à croire que c'est au restaurant que tout le monde attrape le Covid.
Mais
moi, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui ont attrapé le Covid et qui ne sont pas allés au restaurant.
D'accord, hein. Mais vous parlez de payer, vous parlez de punition. Nous, en face, on essaye de comprendre, comme citoyen, comme observateur, la logique de ces politiques que vous jugez des politiques d'autorité. À ce jour, Marseille, même si les chiffres s'améliorent, Marseille détient le record de France métropolitaine du taux d'incidence de la maladie. C'est la ville qui est en zone d'alerte maximale. Vous vous remontez contre une décision
mais
que
non,
vous
mais
jugez
c'est pas
politique
vrai, ce que vous
alors qu'elle est sanitaire.
Mais non, mais c'est complètement faux ce que vous dites. C'était vrai au mois de juillet, et d'ailleurs les marins-pompiers de Marseille l'ont dit, puisqu'ils avaient testé les eaux usées de Marseille, et c'est eux qui ont donné l'alerte en disant attention, parce que vous savez qu'à Marseille, il y a des eaux, les eaux usées sont régulièrement testées, et c'est comme ça qu'on sait que dans quel territoire on a effectivement le Covid qui circule le plus fort ou le moins fort. À l'heure où je vous parle, ce que je peux vous dire, c'est que les pompiers qui ont réalisé encore des tests ont considéré l'inverse aujourd'hui. Au contraire, une forte diminution. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on n'est pas Marseille. Il y a une stagnation.
Oui, on est dans
une diminution.
Plateau, absolument, tout le monde s'accorde.
Voilà,
dire,
on
oui.
est d'accord. Donc, comment vous expliquez-vous dans une, alors qu'on était en forte hausse? Si on avait dit ça la dernière fois, en disant on ferme tout, mais on n'a qu'un. Si on considère que Marseille est en danger parce que le Covid circule trop, ben, il fallait, dans ce cas-là, confiner Marseille. De manière globale. Mais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que c'est parce qu'on va fermer deux restaurants que c'est fini?
Donc, vous préférez un confinement général
je dis juste
à votre
que
région
c'est où, non,
plutôt
je dis
qu'une
juste,
fermeture de restaurants?
Je dis juste, maintenant, ouais, non, mais comprenez, oui. J'ai mal à comprendre, je vais vous l'expliquer alors. Comme ça, vous allez bien comprendre,
merci.
Car vous m'aurez quitté, vous aurez tout compris. Voilà.
C'est le but d'une interview.
Oui. C'est le but de l'interview, exactement. C'est pour ça que vous m'avez appelé. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, où l'État dit Marseille, il y a danger à Marseille. Je peux l'entendre.
L'État dit, il y a course contre la montre, il faut sauver les vies à Marseille.
Mais enfin, attendez, j'espère que franchement, il suffit, enfin, que c'est sérieux. Vous croyez que c'est parce qu'on va fermer des restaurants qu'on va sauver des vies à Marseille?
Non, mais c'est pour ça que j'aimerais comprendre. Vous préférez donc un confinement régional?
Je dis juste, non, moi je préfère rien. Je dis juste que s'il y a danger à Marseille, alors il aurait fallu faire un confinement général et dire oui, il y a danger, donc on considère qu'il y a un confinement général.
D'accord.
Mais pas ce système qui ne veut rien dire, où on dit à des restaurateurs, parce que les jeunes qui vont au restaurant, au bar, enfin, notamment au bar, plus qu'au restaurant d'ailleurs, parce qu'au restaurant, je peux vous dire que les gestes barrières sont respectés.
Les distances
sont respectées. On vous fait mettre le gel. Mmh. Franchement, dès que vous vous levez pour aller à la caisse ou aux toilettes, on vous fait mettre le masque. Donc franchement, ils le font sérieusement. Voilà. Mais allez, les bars. Mais vous croyez que les jeunes vont rester parce qu'on leur a dit, ça y est, on a fait les bars, il ne va plus rien avoir? Mais vous croyez qu'il ne va pas y avoir des soirées privées?
Mais donc c'est politique pour vous, Samia Ghali? J'essaye juste de comprendre aussi, parce que
non,
je parle des élus, vous,
moi aussi, j'ai cherché,
Europe Écologie
mais moi
Les Verts, aussi. Les Républicains, tout le monde fait bloc contre cette décision.
Oui, mais parce que moi aussi, j'ai cherché à comprendre. Je me suis dit, bon, on n'est pas des idiots, on n'est pas non plus des gens irresponsables, croyez-moi. Voilà. Mais quand on se dit, en réalité, la réalité, c'est que ce n'est pas le Covid qui augmente. C'est tout simplement, aujourd'hui, la PHM qui est en situation de pas être en capacité de supporter les urgences. Mm-hmm. Sauf que en même temps, l'hôpital public, vous continuez à faire des opérations qui pourraient décaler ou faire reporter sur l'hôpital privé, par exemple. On peut faire appel à l'hôpital privé, aux cliniques privées, pour accompagner l'hôpital public. Eh ben non. Non, on continue comme s'il ne se passait rien. Il y a quelque chose il y a un problème, non?
Et il y a un problème aussi pour vous de territoire. Vous auriez aimé, puisque disons-nous les choses clairement, Samia Ghali, pour mieux comprendre aussi, qu'à Paris, qu'à Nice, qu'à Lyon, on ferme aussi les restaurants et on ne se limite pas à l'interdiction de fermeture des bars à 22h. Cela vous aurait donné...
Mais depuis le début, c'est comme ça.
Une idée plus volontaire de cette politique.
Vous rendez compte qu'en réalité, on était en rouge. Ok, on était en rouge. Toutes les semaines, il y a un code couleur en France maintenant. Donc, on était en rouge.
Oui, mais on a l'impression qu'on prend tout ça à la légère. C'est pas drôle. Hein. On parle de morts, de personnes en réanimation.
Mais moi non plus, croyez-moi. Voilà, mais justement, j'essaie de comprendre. Mais vous savez, quand on vous change tous les règles toutes les semaines, c'est compliqué de suivre quand même. Hein. Mm-hmm. Voilà. On était en rouge, d'accord? Paris passe en rouge. Eh bien, nous, on passe en rouge écarlate. Et pour avoir... Enfin, comment vous expliquez ça? En n'ayant pas d'augmentation de Covid.
On prend le taux d'incidence de la maladie. Après, nous ne sommes pas,
vous
et moi, dans les chiffres,
vous savez que les taux d'incidence, vous avez regardé les départements, madame? Est-ce que vous avez regardé les départements ?
Oh bah, j'ai pas regardé
les chiffres. Vous les avez ?
Les chiffres.
Ah ben c'est
les
important. Ben, regardez-les, vous serez surprise parce qu'en fait on n'est même pas dans le top 10 des départements avec une incidence forte.
Bon, en tout cas avec d'autres élus, notamment le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Buzulier, qui sera notre invité demain. Vous vous êtes battu, vous avez obtenu notamment une clause de revoyure. En gros, on fait le point dans 7 jours.
C'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça, mais c'est d'ailleurs parce que le ministre a bien compris que son choix, il était allé trop vite. Mmh. Il est allé trop vite, il a parlé trop vite, en fait, le problème d'Olivier Véran. C'est qu'il a parlé trop vite, et après, vous savez, on est en politique. Donc, s'il recule, on va dire, ah, ben, il est faible. Si, bon, en fait, on est dans un problème d'ego.
Donc, c'est une posture, et pour vous, cette action et cette décision ne servira à rien, Samia Ghali, si ce n'est à crisper les professionnels du tourisme.
Non, mais moi, j'aurais préféré. La ville de Marseille a dit qu'elle était prête à même accentuer, voir de quelle façon travailler avec l'État pour trouver
des solutions. Avec des plus ciblés dans certains établissements,
voilà,
par exemple.
Exactement. Mmh. Même ça, ça a été refusé.
Bon, eh bien, revoyure, donc, dans 7 jours, avec les autorités. Merci, Samia Ghali.
Merci à vous.
Deuxième adjointe au maire de Marseille, vous étiez avec nous en direct sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
C'est l'essentiel de l'actualité, maintenant à 18h30, si vous nous rejoignez. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le principal suspect de l'attaque au hachoir à Paris assume son acte. Il visait spécialement Charlie Hebdo. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'aurait pas supporté la republication des caricatures du prophète Mahomet. 9 personnes sont actuellement en garde à vue. Un sursis de 24 heures pour les bars, cafés, restaurants de la métropole d'Aix-Marseille. Leur fermeture interviendra finalement demain soir au lieu de ce soir. Sur place, l'adjointe au maire Samia Ghali appelle les commerçants à ne pas respecter cette directive. La pandémie a déjà fait 1 million de morts dans le monde. L'OMS craint que le bilan ne double si les pays ne se mobilisent pas davantage. Nicolas Dupont-Aignan se lance dans la course à l'Élysée. Il annonce sa candidature à la présidentielle de 2022 pour offrir le choix aux Français, selon ses propres mots, et échapper à un duel Macron-Le Pen. Donald Trump a fait son choix. Il devrait annoncer ce soir à 23h, heure française, la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême pour succéder à Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière. Et puis la crise politique au Liban. Le Premier ministre désigné, après l'explosion du port de Beyrouth, renonce à former un gouvernement et démissionne.
Merci Sophie Tussaud, tout à l'heure 19h pour le journal sur Europe 1. On vous retrouve Valérie Darmon et on se couvre demain et les jours qui viennent malheureusement.
Et oui Wendy, parce que les températures sont dignes d'une fin de mois d'octobre ou d'un début novembre suivant les régions, avec demain matin 1 à Aurillac, 3 à Rodez et Angoulême, 4 à Montluçon, 6 à Aubenas et à Nantes. Par exemple, 8 à Charleville et Colmar, 9 à 3, 10 à Marseille, seulement 11 à Paris. Et l'après-midi, c'est pas tellement mieux. Entre 9 à Guéret, par exemple, et 19 à Lille. En région parisienne, seulement 15 degrés. Donc les températures qui sont jusqu'à 7 degrés inférieures au normal de saison. Et puis du côté du ciel, tout de même, ça s'améliore nettement. Ce sera pluvieux cette fois sur toute la moitié est de la France, toute la journée, du matin au soir. Et ce sera nuageux, voire de temps en temps lumineux sous forme d'éclaircies sur la façade ouest.
Merci Valérie, à tout à l'heure sur Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est toute l'actualité en débat. Avec ce soir nos grandes voix, Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
La France est toujours dans le viseur de l'islamisme radical et l'attaque d'hier a rouvert les plaies collectives 5 ans après les attentats de Paris. C'est notre échec à tous. Alors quelles sont nos armes aujourd'hui? Nous reviendrons aussi évidemment sur le plan de bataille d'Olivier Véran, qui revendique pour Marseille des mesures temporaires et non arbitraires, battues en brèche, on l'a entendu il y a quelques instants, par Samia Ghali, vécue en région comme une punition. Et on va s'exprimer et s'expliquer sur ce hiatus. Et puis les ministres, tous derrière Jean Castex cette semaine sur France 2, mais la stratégie du gouvernement est-elle lisible?
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Avant d'amorcer le débat comme chaque semaine, je vais vous demander à tous les trois vos coups de griffe, vos coups de cœur, vos coups de blues, votre coup de gueule, Laetitia Krupa, pour commencer.
Alors, il suit l'interview que vous venez de faire. Hein, c'est le coup de gueule contre Samia Ghali qui déclare, on a eu la preuve, hein, dans les oreilles. À qui le veut, à quelle caméra le veut, à quel micro le veut, qu'effectivement les policiers municipaux n'iront pas verbaliser les restaurateurs. Elle était un peu plus nuancée là avec vous, j'ai remarqué.
Je ne leur dis pas ce qu'ils ont à faire, mais ils ont d'autres chats à fouetter.
Effectivement, je reviens pas sur le fond, l'exaspération, le désespoir d'une profession, effectivement déjà sinistrée par le confinement. C'est pas la question en fait qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est que cette interdiction et ce conseil aux policiers est proféré par une élue. Or, on sait qu'en France, on vit une crise de la représentativité depuis quelques années. Une crise qui se creuse, qui s'empire au fur et à mesure.
Et de la confiance dans les politiques.
Des mois, des années. Mais la représentativité, Wendy, c'est important parce que qui dit ça aujourd'hui ? Une représentante. On marche sur la tête. Enfin, si la défiance maintenant se fait à tous les étages et si effectivement les lignes de fracture se multiplient entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, la démocratie, la République est menacée. C'est-à-dire que la responsabilité de Samia Ghali aujourd'hui, elle est fondamentale dans le fonctionnement de nos institutions et encore une fois, d'un point de vue global. Et je ne suis pas du tout grandiloquente en disant ça, mais de vraiment la survie de la démocratie. Si on commence comme ça, je ne sais pas comment ça va finir.
Oui, vous l'avez entendu, Frédéric Dabi. Elle préférerait quasiment, elle n'a pas été très explicite, mais un confinement régional, territorial à cette mesure qui frapperait uniquement les cafetiers et les restaurateurs.
Oui, c'est vrai, je partage ce que dit Laetitia Krupa. C'est vrai que la fronde des élus locaux est un élément de signal et d'avertissement pour le gouvernement parce qu'on n'est pas, si je peux dire, vierge dans cette période. On a très bien vu pendant la période du confinement et du déconfinement à quel point les Français ont manifesté une confiance très forte vis-à-vis des élus locaux, les maires, les présidents de région. Le fait régional s'est quand même beaucoup imposé pendant cette période récente et ils ont plutôt stigmatisé un État qui n'a pas été efficace, qui n'a pas été agile, qui a mal équipé les hôpitaux. Là, il y a la critique qui passe des masques aux tests. Et c'est vrai que la petite musique de Samia Ghali, je ne la juge pas. Elle a donné des arguments recevables, mais on peut lui opposer ce que les Français nous disent dans nos enquêtes, à savoir la crainte très forte de cette épidémie, la crainte de perdre ses proches. Mais c'est une mauvaise musique que le gouvernement doit, à mon avis, prendre en charge. Ce qu'a dit Olivier Véran, il a quand même été sur place. Il a dit que c'était des mesures temporaires, cette clause de revoyure. C'est un aspect qui pourrait peut-être nuancer et, réparer les choses. On verra ce que dira demain votre antenne, Renaud Muselier.
Muselier, absolument. Philippe Moreau-Chevrolet, puisque cela rejoint votre coup de cœur, peut-être exprimer justement ce que vous ressentez sur Olivier Véran, dont Samia Ghali dit, bon voilà, il a fait son coup de com', il est allé sur le terrain, mais il est allé plus vite que la musique. Et maintenant.
Alors vous savez, Wendy, je ne suis pas particulièrement tendre avec la communication du gouvernement, mais j'ai un coup de cœur cette semaine, c'est Olivier Véran. Pourquoi ? Parce que c'est celui dans le gouvernement, c'est le seul dans l'exécutif, qui est depuis le début, qui a vécu la première vague et qui depuis le début annonce les mauvaises nouvelles, gère les mauvaises nouvelles. Moi, ce que j'aime bien dans son profil, c'est qu'il le fait avec pédagogie, avec calme. Il ne se positionne pas au-dessus des gens, mais à la hauteur des gens. Et je trouve que cette semaine, ça a été le communicant le plus remarquable. Il a éclipsé même Jean Castex et son émission politique. Pourquoi ? Parce qu'il a annoncé à lui tout seul ce qui allait se passer à Marseille. Il y a eu une levée de bouclier. Il est allé sur place et il a aidé à la résoudre. Aujourd'hui, même si Samia Ghali est toujours vent debout, Renaud Muselier, le président de région, s'est rallié à lui. Donc, il a fait œuvre politique véritablement. Et ce que j'aime bien dans son profil, c'est que c'est quelqu'un qui s'est engagé dans sa carrière contre le harcèlement. Il a fait passer la taxe soda, c'est un médecin à la base. Il s'est engagé pour les Chibani, les vieux immigrés qui sont dans des conditions sociales extrêmement difficiles. Il s'est engagé dans l'affaire des bébés sans bras pour qu'il y ait plus de transparence. Il s'est engagé pour les demandeurs d'asile au plan sanitaire. Donc il fait preuve d'un certain courage et d'une certaine constance. Moi, ma peur, c'est qu'il saute. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une grande vague de populisme médical.
Oui, et qu'on le laisse en première ligne.
Et qu'on le laisse en première ligne et qu'il s'encaisse, il s'encaisse, il s'encaisse. Il faut que des gens comme ça restent dans l'exécutif ou en tout cas dans le dispositif médical. Je le dis alors que je critique habituellement beaucoup la communication du gouvernement, surtout sur le Covid. Elle est désastreuse. Mais il y a une personne solide que vous pouvez regarder, c'est Véran, et il faut qu'il reste parce que sinon on sera dans une crise politique un peu plus grave qu'actuellement.
Mais il pourrait sauter et aussi victime de ce conflit aussi Paris-Lyon-Marseille. On est aussi dans ce conflit des territoires, hein, Frédéric et Laetitia.
Oui, enfin, moi je ne crois pas du tout qu'il va sauter parce que, à mon avis, c'est la caution. C'est une caution, Olivier Véran. C'est celui qui incarne la sécurité avant tout, avant l'équilibre économique. Vous savez, il y a toujours cette balance. Lui, il incarne ça. Il incarne le message aux Français de « on va vous protéger » et « non, on dit non à la mort ». Parce que c'est ça, c'est le message qu'il donne aux Français. On fera tout pour éviter le nombre de morts, comme ça augmentant au fil des semaines. C'est le message qu'incarne Olivier Véran, c'est la caution du gouvernement, donc je ne pense pas qu'il saute.
Bon, alors, oui, puis on va relativiser, c'est une mesure pour l'instant d'une semaine, hein,
voilà,
Frédéric Dabi,
c'est vrai,
en relativisant
partage,
les choses.
Je partage complètement ce qui vient d'être dit, c'est vrai que lorsqu'il a remplacé, rappelez-vous, après le 14 février, au pied levé, Agnès Buzyn, il l'a complètement éclipsé, oui. Si je puis dire, il avait connu dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, là, un des bons de popularité les plus hauts de l'histoire, c'était, je crois, une trentaine de points. Là, quand même, où je relate le discours des Français, il y a quand même une certaine incompréhension et le sentiment que le gouvernement, dans son ensemble, a changé de pied. La semaine dernière, à cette même place, Wendy, on mettait en avant le « il faut vivre avec » d'Emmanuel Macron, son refus d'imposer des mesures contraignantes. Et là, on a eu un véritable tour de vis. Dans un contexte où l'inquiétude sanitaire, c'est-à-dire l'inquiétude vis-à-vis de la crise du Covid est forte, mais est moins forte qu'elle l'était encore il y a quelques mois, et est infiniment moins forte que l'inquiétude sur les conséquences économiques, ce que nous disent les différents restaurateurs, et on peut comprendre leur protestation.
Oui.
C'est cette incompréhension, c'est ce décalage qui fait que le gouvernement, pendant je pense une dizaine de jours, va connaître un moment de zone grise particulièrement difficile, puisque beaucoup de Français nous disent, sont un peu sur la posture de Giovanni Drogo, le héros du désert des Tartares, ils attendent un ennemi qu'ils ne voient pas, qu'ils ne les touchent pas, et il y a peut-être un sentiment d'épuisement qui est en train de venir.
Oui, intéressant. Demain, c'est l'appel à manifester aux Invalides à Paris contre la fermeture des bars, appel lancé par un représentant de l'IMIH à Paris, puisqu'à partir de lundi, les bars devront fermer à 22h. Et j'aimerais que vous compreniez un petit peu mieux le ciblage, pourquoi les restaurants et les cafés. Voici ce que disait sur l'antenne de France Inter Anne-Claude Crémieux, qui est professeure en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis. Écoutez.
Il y a un article qui vient de sortir qui montre que les personnes qui fréquentent les bars ou les restaurants ont 4 fois plus de chances d'être infectées. Pourquoi ? Parce qu'on le sait très bien, ce sont des situations dans lesquelles on ne garde pas le masque, bien sûr, et la distance sociale n'est pas toujours respectée.
Je voulais simplement remettre un petit peu les choses au clair, Philippe Moreau-Chevrolet.
Il y a quelque chose qui n'a pas été, pour le coup, bien fait par le gouvernement, c'est l'explication sur la manière dont se répand le virus. On en est encore aujourd'hui, on a vu le dernier tweet d'Emmanuel Macron à dire qu'il faut se laver les mains, respecter la distanciation et porter un masque. C'est vrai, mais c'est très très primitif. Aujourd'hui, on sait que le virus, il se répand dans l'air. C'est pour ça qu'à Europe 1, on porte tous des masques autour de
voilà,
cette table.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce petit...
C'est pour ça que vous entendez un petit bruit, parce qu'on a un masque. Pourquoi on a un masque ? Parce que ça se répand dans une pièce fermée en particulier. Donc, il faut se protéger. Cette explication de texte n'a pas été faite par le gouvernement pendant les mois d'été où elle aurait dû être faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, du coup, les Français se demandent « Attendez, moi, je me lave les mains, je porte un masque quand on me dit de porter un masque, je peux respecter une distanciation, pourquoi je ne pourrais pas aller au restaurant ?» Bah, parce qu'au restaurant, vous ne pouvez pas porter de masque. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé la solution qui, pour moi, passerait par l'aération, par exemple, je ne fais pas de publicité, mais un restaurant à Paris, le restaurant Allard, qui est piloté par le groupe Ducasse, ils ont installé des aérateurs individuels. Chaque table est aérée, c'est-à-dire que l'air de la table s'en va dans les tuyaux et est expulsé à l'extérieur.
Ah oui, vous renouvelé. Imaginez l'investissement pour des petites
structures. C'est un investissement colossal, mais l'État aurait pu, au lieu de donner de l'argent,
faire de la pédagogie,
de l'équipement pour les restaurants. On avait 2 ou 3 mois pour se préparer.
Ouais,
mais pour ça, je vais vous poser une question. Je pose une question, je me retrouve dans cette position de vous poser une question. Est-ce qu'il y a consensus scientifique sur ces points ? Parce que c'est ce qui pose problème. Est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur le fait de dire que dans cette pièce, effectivement, le virus circule et qu'on peut l'éviter avec les mesures que vous proposez ?
Votre question est absolument centrale, Laetitia, car je ne sais pas si je fais l'impression qu'il n'y a pas de consensus. En tout cas, les Français sont, pardon d'être un peu trivial, paumés, car ils ne voient pas de consensus. Et l'épuisement dont je parlais sur cette maladie, sur cette crise qui s'étire en longueur. Au mois de mai-juin, les Français étaient sur une logique août 44. Ça y est, on va revenir à la vie d'avant. Ils ont clairement intériorisé que ce ne serait plus le cas. Et cet épuisement dont je parlais vient aussi du sentiment de voir des scientifiques pas d'accord sur le sujet.
Mais alors, la confusion, elle est grave, parce que comment une décision sanitaire pour la santé publique se transforme en punition ? Voilà le résultat.
Voilà. Il y a une réponse à votre question, Laetitia. La réponse, c'est il y a un consensus qui doit être politique. C'est la réponse de Mathias Bargon, qui est un urgentiste assez médiatique. Il répond, lui, c'est aux politiques de faire la décision. On pourrait très bien décider que le risque zéro n'existant pas, qu'on peut vivre avec des restaurants, à partir du moment où leur aération, comme dans les classes d'école d'ailleurs, est géré par un système particulier, ça s'appelle des filtres HPA, avec un certain type de normes. Sur cette base-là, OK, on aura quand même des contaminations, mais moins, on aura fait quelque chose, on ne peut pas vivre sans risque, voilà. On pourrait décider collectivement de faire ça. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas eu cette réflexion, ni même ce débat démocratique, puisque tout est décidé un petit peu en panique, en fait, au dernier moment, alors qu'on avait encore une fois 2 mois, que le Parlement aurait pu se pencher sur cette question. Et c'est aux politiques de trancher. C'est pour ça que c'est une décision terrible à prendre. Et c'est pour ça qu'Agnès Buzyn était en larmes, il faut le dire, cette semaine à l'Assemblée, quand même, en disant « Jugez-moi sur mes actes, je n'ai pas été parfaite, mais ne jugez pas que je suis une mauvaise personne ». On en est à des extrêmes quand même dans cette crise parce qu'on ne sait pas gérer le long terme. On fait toujours du court terme.
Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, avant de réfléchir à notre débat sur l'islamisme rampant, votre coup de cœur pour finir ce tour de table.
On est passé d'un sujet à un coup de cœur. Mon coup de cœur n'a rien à voir. C'est un an de la disparition de Jacques Chirac. On se souvient, le 26 septembre 2019, de la vague d'émotion dans tout le pays, un peu équivalente à celle qu'avait connue la France en 1996 à la mort de François Mitterrand. L'IFOP avait réalisé un sondage avec le JDD à l'époque où Jacques Chirac, pourtant si controversé quand il était à l'Élysée, apparaissait comme le meilleur président à égalité avec Charles de Gaulle. Et les enquêtes, Wendy, à l'époque, avaient révélé une dissociation entre le politique, qui avait parfois été critiqué, très impopulaire, on se souvient de son deuxième mandat extrêmement compliqué, de l'année horribilis 2005, et l'homme Chirac, unanimement apprécié à gauche et à droite, l'homme chaleureux, rabelaisien, qui aimait les gens et qui leur ressemblait. Un an après cette disparition, cette dissociation s'estompe. Puisque dans les enquêtes, on voit que l'homme reste toujours. Mais il y a des faits marquants de ces mandats présidentiels qui restent dans les mémoires. L'opposition à la guerre d'Irak, le discours du Veldiv, le fameux discours de Johannesburg sur notre maison qui brûle. La part d'ombre disparaît. Jacques Chirac entre dans l'histoire.
Et voilà, notre maison qui brûle, Johannesburg. Écoutez Jacques Chirac.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables.
Voilà, Jacques Chirac dans ses actes aussi de mémoire, de transmission, d'engagement au civisme. Frédéric Dabi, c'est ce que vous retenez avec cette double actualité, la mort de Denis Tillinac aujourd'hui, son ami, sa plume, et puis l'interview hier à BFM, la longue interview de Claude Chirac, sa fille qui n'exclut pas un jour de s'engager elle aussi dans un mandat politique, peut-être en Corrèze.
Oui, c'est vrai qu'elle a été extrêmement politique et ça serait aussi un retour une forme d'héritage de sa mère, puisque Bernadette Chirac a été élue en Corrèze en 1979 pour la première fois.
Oui, petite réaction là-dessus, les amis.
Oui, chez Claude Chirac, c'est elle qui a fait l'image du président Chirac.
Oui.
C'est elle qui a même repensé le candidat Chirac quand il était en mesure de gagner, quand il a gagné l'élection. Elle a été aux États-Unis apprendre auprès de Roger Ailes, le fondateur de Fox News et conseiller de Reagan, les méthodes pour faire de Chirac un vrai président populaire avec les vestes trop larges à la Jean Castex, avec le côté terrien,
oui,
avec la voix aussi qui a commencé à parler plus lentement, avec plus d'ampleur, alors qu'avant c'était un jeune homme pressé qui fumait cigarette sur cigarette avec des costumes à 6000 et des pompes en croco.
Ouais.
Il est devenu autre chose et c'est grâce à Claude Chirac.
Et elle parle de cet homme, Claude Chirac, dans cette interview en disant qu'il était en effet très complexe et que les Français ont commencé à l'aimer en 1995 lorsqu'il s'est forgé son image présidentielle.
Mais ce qui est génial, c'est qu'elle restera communicante, spin doctor, secrète jusqu'au bout. Franchement, dans l'interview, elle dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a aucune réponse à cette transformation en homme populaire de son père, alors que c'est elle l'instigatrice de ce changement d'image. Voilà, communicante un jour, communicante toujours.
Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi, on revient dans un instant dans le débat des grandes voix.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 19h. Elles sont avec nous, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi. On va revenir désormais sur cette menace islamiste rampante, cette hydre islamiste, ainsi l'avait qualifié Emmanuel Macron, et cette attaque hier, 5 ans après les attaques à Paris et en plein procès aux assises. J'avais presque oublié, j'ai peur à nouveau. C'est un témoignage que vous avez peut-être lu aujourd'hui dans Libération. Les Français non plus, d'après vos enquêtes IFOP, n'ont rien oublié de cette épouvante.
Ils n'ont absolument rien oublié. On suit depuis le 11 septembre 2001 un baromètre de la menace terroriste et depuis 2015, la menace reste très forte. Elle a bien sûr un petit peu diminué, heureusement, après les deux années terribles 2015-2016, mais elle n'a pas reflué, ni pendant le confinement, ni du fait d'une certaine raréfaction des attentats depuis le dernier qui avait frappé, c'est-à-dire la préfecture de police en octobre 2019. Dans notre enquête de rentrée sur les préoccupations des Français, tout le monde a mis en avant les 26 points de plus sur la lutte contre la délinquance, mais il y a eu 18 points de plus sur la lutte contre le terrorisme. Les Français vivent avec ça, il y a une véritable résilience. Hein. Dans une enquête récente, on voyait que seulement 15% des Français déclaraient au cours des 5 dernières années avoir modifié des habitudes de leur vie quotidienne. 15%, c'est beaucoup dans une logique d'extrapolation, mais la majorité est écrasante. Mais voilà, on a des Français qui vivent avec, c'est ça, ce qu'on appelle maintenant, ce mot nouveau que les Français se sont complètement approprié, la résilience face au terrorisme.
Il y avait des bruissements dans la littérature djihadiste, dit notamment le journaliste Mohamed Sifaoui, qui observe bien, hélas, ces comportements, Laetitia Krupa. Donc, on peut connaître la menace, et pour autant, on n'arrivera pas demain à sécuriser tous les lieux de notre pays. Comment on vit avec cette menace et comment aujourd'hui les politiques peuvent nous rassurer ?
Il y avait beaucoup plus que des bruissements, Wendy, puisque dans les pays musulmans, il y a eu des manifestations en Pakistan, en Inde, en Turquie, avec des pancartes hein, qui disaient carrément « Charlie Hebdo paiera le prix fort ».
Après la republication des caricatures.
Oui, il y a même la republication, il y a même une vidéo du Premier ministre, du ministre pakistanais, par contre, des Affaires étrangères, qui dit que une condamnation ferme ne suffit pas. Il dit qu'il a fait part de son indignation au gouvernement français, mais qu'une condamnation ferme ne suffit pas. Alors, bien sûr, il dit que les responsables de cet acte odieux doivent être traduits en justice, mais que peut comprendre un homme, ce jeune homme là de 18 ans qui entend ça via des vidéos? On sait aujourd'hui tous les chemins de l'embrigadement qui sont très simples, un clic et on peut être petit à petit embrigadé. Donc vous imaginez bien que cet homme, s'il est bien d'origine pakistanaise, parce qu'il me semble que son identité n'a pas encore été vraiment...
Il se dit d'origine pakistanaise.
Voilà, vérifié, peut être impacté directement par ce type de discours. C'est simple de faire le lien, sauf qu'effectivement, ça peut... avoir un effet direct sur un individu qui, avec un hachoir, donc un instrument que tout le monde peut avoir, va faire un attentat terrible et attenter à la vie de Français innocents. Voilà l'état de la menace. Donc,
en se trompant d'adresse au passage, ce qui est l'ironie dans ce drame.
Ça, Charlie Hebdo a été très bon en disant quel con, on a changé d'adresse. Ouais. C'est vraiment ça. Enfin, franchement,
non,
heureusement qu'ils ont encore de l'humour.
Le caractère ou la personnalité de ces auteurs isolés, supposément. Philippe Morochevrolet.
Oui, c'est du terrorisme low cost, c'est du terrorisme décentralisé. Donc ça correspond à tous les codes de la communication d'aujourd'hui. Et c'est terriblement efficace en termes de marketing. Là où il y a eu une gestion que je trouve... Alors, ça pose une question, mais c'est intéressant. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé sur cet attentat. Donc, il y a eu une sorte de polémique autour du fait de savoir si le président devait parler à cette occasion.
Et comment vous réagissez à ça? Puisque l'Élysée a confirmé à l'AFP qu'Emmanuel Macron ne prendrait pas la parole sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a eu deux réactions. Il y a eu une première série de réactions qui ont dit « Mais attendez, Hollande, à l'époque, avait reconnu la gravité de ces faits. Oui. Il est important que la société française réagisse. » Et marque le coup. Et la deuxième réaction qu'on a envie d'avoir, c'est peut-être qu'on ne va pas donner une audience aussi terrible à n'importe quel type qui vient commettre ce type d'acte, parce que ça revient à en faire un événement national
c'est
à chaque
sûr.
Fois.
Mais Gérald Darmanin se rend sur place, accompagné de Jean Castex.
Oui, c'est voilà. Darmanin,
c'est peut-être un échelon suffisant, Castex aussi, on n'est peut-être pas obligé de remonter à l'Élysée.
D'accord.
Mais c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut à chaque fois en faire un événement, au risque de créer des vocations et de servir la stratégie médiatique de Daesh? Ou est-ce qu'il faut banaliser? Mais si on banalise, on va s'habituer, comme le dit Frédéric Dabi. Alors, c'est un signe de résilience. C'est aussi un signe, quelque part, de résignation. Mmh. Et ça a un effet émollient sur le long terme, sur
mais
l'opinion.
Mais après, du coup, il y a un précédent. Je vous coupe, Philippe, parce que s'il ne prend pas la parole sur cet attentat-là, pourquoi la prendra-t-il sur un futur potentiel, une future potentielle attaque?
Ça pose aussi la question d'une nouvelle forme de type de communication, alors qu'à chaque fois avant, c'est vrai, le président parlait en cas d'attentat.
Et de la gradation, évidemment.
Bah,
je voudrais qu'on se souvienne ensemble, le 3 octobre 2019, ce discours d'Emmanuel Macron rendant hommage aux 4 fonctionnaires tué dans cet attentat à la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron qui appelle alors à bâtir la société de vigilance face à l'hydre islamiste. Écoutez Emmanuel Macron.
Opposons à la haine l'intransigeance républicaine, à la terreur l'irréductible esprit français de résistance, à l'obscurantisme l'amour de la raison et son exigence.
On était dans ce discours, Frédéric Dabi, très solennel, mais très lyrique aussi. On ne se place pas dans le même degré
tout à fait. Là,
de discours.
On n'est pas sur une non-réaction dont vous parliez tout à l'heure, Philippe. Et effectivement, c'est un non-événement et c'est une fausse polémique. Maintenant, dans les enquêtes d'opinion, je suis frappé de voir à quel point il y a un sentiment d'inaction du président de la République sur ces questions régaliennes d'une manière générale. On parlait de la délinquance il y a quelques semaines et c'est un des rares sujets sur lesquels les Français... 3 octobre 2019, ça fait un an. Concrètement, quand on interroge les Français sur les actions qui ont été menées, très peu de choses émergent. On a le sentiment, qui est toujours un petit peu compliqué pour un pouvoir exécutif et pour un président qui, sans doute, dans 18 mois, va remettre en jeu son mandat, qu'il a beaucoup parlé et qu'il a très peu agi. On a ces mêmes logiques d'opinion sur le projet de loi sur le séparatisme qui a été, je crois, encore décalé.
Oui, et voilà pourquoi partie de la droite s'engage dans ce gouffre sécuritaire qui n'est pas aujourd'hui pris proprement par les autorités, Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, il y a un espace qui n'a pas été comblé.
Oui, il y a un espace, d'autant plus que le gouvernement lui-même y va. Donc c'est ce qui est surprenant dans la séquence. Ils sont faibles sur la sécurité, notamment depuis les Gilets jaunes. Mmh. En gros, on a perdu avec ce gouvernement une culture de l'ordre public qu'on avait auparavant. C'est certainement pas la faute que du gouvernement. C'est arrivé sous ce gouvernement. Du coup, comme c'est arrivé, eh bien, il y a une interrogation sur sa capacité donc, à maintenir l'ordre, à assurer la sécurité. Le gouvernement lui-même va jouer sur cette corde pour essayer de devenir plus régalien et compenser le défaut que souligne Frédéric Dabi. Maintenant, ça a le désavantage d'ouvrir une avenue à l'opposition parce qu'effectivement, ils sont prenables sur ce thème-là. On peut les avoir. Donc la droite, à juste titre, se dit qu'il y a une opportunité.
Et Marine Le Pen
on assiste
également
à un combat politique.
Et Marine Le Pen également.
Oui, Emmanuel Macron prendra la parole vendredi prochain sur ce fameux discours sur le séparatisme qui va annoncer le projet de loi qui sera présenté. Donc il prendra la parole, mais est-ce qu'il va faire le lien? Moi, à mon avis, c'est casse-gueule, pardon du terme, mais avec l'attentat d'hier, ce serait trop tard. Il fallait prendre la parole tout de suite. Sinon, 7 jours après, c'est trop tard.
Il voulait aussi marquer le coup avec les 1 an de Chirac, et je pense que voilà.
Et le terme séparatisme est un terme qui passe mal parce qu'il est relativement polysémique.
Je vous invite à lire la tribune de Jean-Charles Brizard et Thibault de Montbrial dans le Figaro. Ils l'ont publié la veille de l'attaque au couteau, donc avant-hier. Et ils alertent sur le risque d'actions violentes ciblées venant de la mouvance de l'islam radical, renforcée, écrivent-ils, par la remise en liberté progressive de nombreux condamnés pour terrorisme. C'est ça aussi la réalité. Très factuelle, très concrète. Merci Laetitia Krupa, merci Philippe Moreau, Chevrolet, Frédéric Dabi. On se retrouve demain pour ce débat des grandes voix. Merci de votre écoute. Et bien, si vous nous rejoignez, il est 19h, le temps de l'info. Bonsoir Sophie Dussault.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
La police municipale, c'est une chose, mais il y a tout le reste, hein. La police nationale, la brigade des bars. On ferme, c'est des risques. On reste ouvert, c'est des risques. C'est toujours délicat de peser le pour et le contre.
La fermeture demain des bars et restaurants de la métropole ex-Marseille. La deuxième adjointe au maire de la cité phocéenne assure que ceux qui ne respecteront pas la mesure ne seront pas verbalisés.
Le principal suspect de l'attaque au hachoir à Paris assume son acte. Il voulait s'en prendre à Charlie Hebdo après la republication des caricatures.
Donald Trump dévoilera officiellement ce soir qui il souhaite nommer à la Cour suprême. Le nom d'une juge très conservatrice circule déjà, son portrait dans ce journal.
Et puis la disparition du journaliste et de l'écrivain Denis Tillinac. Il était très proche de Jacques Chirac et il s'éteint 1 an, jour pour jour, après son ami.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est finalement demain soir que les bars et les restaurants de la métropole d'Aix-Marseille vont fermer. Sophie, ils ont obtenu un sursis de 48 heures de la part du gouvernement.
Oui, une fermeture pour 2 semaines que Samia Ghali, la deuxième adjointe au maire de Marseille, n'accepte pas. Elle encourage les restaurateurs à la désobéissance civique et assure que ceux qui ne fermeront pas ne seront pas verbalisés par la police municipale. Samia Ghali était tout à l'heure sur Europe 1. Elle a dénoncé une mesure inefficace pour lutter contre l'épidémie.
Comment vous expliquez-vous, alors qu'on était en forte hausse, si on considère que Marseille est en danger parce que le Covid circule trop, il fallait, dans ce cas-là, confiner Marseille, de manière globale. Vous croyez que c'est parce qu'on va fermer des restaurants qu'on va sauver des vies à Marseille?
Non, mais c'est pour ça que j'aimerais comprendre. Vous préférez donc un confinement régional?
Moi je préfère rien. Je dis juste que s'il y a danger à Marseille, alors il aurait fallu faire un confinement général et dire oui, il y a danger, donc on considère qu'il y a un confinement général.
D'accord.
Mais pas ce système qui ne veut rien dire, où on dit à des restaurateurs, parce que les jeunes qui vont au restaurant, au bar, enfin, notamment au bar, mais vous croyez que les jeunes vont rester parce qu'on leur a dit, ça y est, on a fait les bars, il va plus rien avoir? Mais vous croyez qu'il va pas y avoir des soirées privées?
Samia Ghali tout à l'heure sur Europe 1. Mathieu Bock, vous êtes à Marseille pour Europe 1 et les commerçants sont-ils d'accord avec cette désobéissance civique prônée par l'adjointe au maire ?
Eh bien, sur le principe, oui, Sophie. Hein. Hors micro, certains jurent la main sur le cœur qu'ils resteront ouverts coûte que coûte. Mais les patrons qui acceptent de parler, tout en saluant le soutien de Samia Ghali, se montrent déjà beaucoup plus nuancés quand on leur demande s'ils vont braver l'interdiction d'ouvrir lundi.
Ah, ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont de l'autre côté. Hein. Mais bon, après, la police municipale, c'est une chose, mais il y a tout le reste. Hein. La police nationale, la brigade des bars... Voilà, ça reste encore des opportunités de pouvoir nous apporter des ennuis supplémentaires. C'est prévu qu'on ferme à partir de dimanche soir. On ferme, c'est des risques. On reste ouvert, c'est des risques. C'est toujours délicat de peser le pour et le contre.
On va ouvrir en emporter en livraison. Et s'il y a des changements, on s'adaptera. Je ne mettrai pas de chaise, je ferai un petit bar pour faire les emporter. Non, mais on restera dans la loi. On a déjà assez mauvaise presse auprès des autres. Donc on va juste faire ce qu'on peut avec les moyens du bord.
Alors tous espèrent que la réunion prévue dans une semaine avec les autorités pour faire un point d'étape portera ses fruits et qu'ils pourront enfin rouvrir. Un patron m'a confié qu'après tout, si au final on ne reste fermé qu'une seule semaine, ce n'est peut-être pas la peine de tenter le diable et d'avoir des ennuis.
Mathieu Bock à Marseille pour Europe 1. Dans l'actualité également, l'enquête sur l'attaque au hachoir hier à Paris. Le principal suspect qui a blessé deux personnes est toujours interrogé par la police et on commence à en savoir davantage sur ses motivations.
Oui, lors de sa garde à vue, il a assumé son geste. Il pensait d'ailleurs s'attaquer au siège de Charlie Hebdo et avait fait auparavant des repérages. Le profil de l'assaillant commence à se dessiner. Guillaume Bié, que sait-on de lui ce soir exactement ?
Alors, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est né au Pakistan en 2002. Il est arrivé en France il y a 3 ans comme mineur isolé, a précisé hier soir le ministre de l'Intérieur. Jusqu'à ses 18 ans, le mois dernier, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise. Il a vécu dans un hôtel à Cergy. D'après Gérald Darmanin, ce jeune homme ne présentait aucun signe de radicalisation. Il n'était pas connu des services de renseignement. Il n'a jamais fait l'objet d'une fiche ou d'un signalement. La seule fois où il a été arrêté par la police, c'était en juin à la gare du Nord à Paris. Il avait un tournevis dans la poche, ce qui a été considéré à l'époque comme une arme de catégorie D. Récemment, il vivait dans un appartement à Pantin, en Seine-Saint-Denis, avec plusieurs colocataires qui ont été placés en garde à vue. Son frère ainsi qu'un ancien colocataire ont aussi été interpellés. En fait, les policiers les interrogent pour savoir s'ils étaient au courant de quelque chose, s'il y a des ramifications quelconques avec un hypothétique réseau. Mais pour l'instant, le suspect lui reconnaît qu'il a agi seul, qu'il voulait et qu'il croyait s'en prendre à Charlie Hebdo, en réaction à la republication des caricatures de Mahomet au début du mois.
Guillaume Biette du service police-justice d'Europe 1. 9 personnes sont à présent en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Jean Castex s'est rendu ce matin à la préfecture de police avec Gérald Darmanin, à la préfecture qui indique que l'ancien immeuble de Charlie Hebdo ne faisait l'objet d'aucune menace connue. Et elle avait été accusée hier par le ministère de l'Intérieur d'avoir sous-évalué la situation.
Et au lendemain de cette attaque qui ravive les plaies, mon invité dans 5 minutes, l'ancien Premier ministre Manuel Valls sur Europe 1.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté cet après-midi à Rouen, un an jour pour jour après l'incendie de l'usine Lubrizol. La population réclame plus de transparence sur la nature des produits chimiques qui ont brûlé, mais également plus de contrôle sur les sites industriels.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Avec Sophie Tussaud pour vous informer, 19h07. Et à la une, à l'étranger, cette nomination cruciale et controversée aux États-Unis. Donald Trump va annoncer ce soir à 23h, Sophie, 23h heure française, son choix pour remplacer à la Cour suprême la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine passée.
Oui, Sonia Derdi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, à Washington. Et selon les médias américains, Donald Trump s'apprête à nommer la juge conservatrice Amy Coney Barrett.
Donald Trump a pris sa décision dans sa tête, c'est ce qu'il a confié à des journalistes et selon ces derniers, c'est Amy Coney Barrett, qualifiée d'extraordinaire par le président, qui devrait succéder à l'icône féministe et progressiste Ruth Bader Ginsburg. Barrett, une juge conservatrice de 48 ans, louée pour ses arguments ciselés, est connue pour ses convictions religieuses traditionnalistes. Originaire de la Nouvelle-Orléans, c'est une fervente catholique. Elle et son mari élèvent 7 enfants, dont 2 originaires d'Haïti ont été adoptés. Cette professeure de droit est personnellement opposée opposée à l'avortement et a déjà laissé entendre qu'elle pourrait approuver des restrictions à l'IVG. Si la magistrate est confirmée par le Sénat à majorité républicaine, la Cour penchera à droite avec 6 juges conservateurs et 3 progressistes. Sa nomination galvaniserait l'électorat de Donald Trump, en particulier les évangéliques, un cadeau quasi inespéré pour le président américain. Les démocrates sont furieux, ils estiment que Trump devrait attendre l'élection présidentielle et laisser le prochain président, quel qu'il soit, désigner un nouveau juge. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Et cette nomination interviendra à 2 jours du grand débat entre Joe Biden et Donald Trump et à moins de 40 jours de la présidentielle. Le Liban, toujours embourbé dans la crise politique, moins d'un mois après sa désignation, le nouveau Premier ministre jette l'éponge. Mustapha Adib renonce à former un gouvernement de mission, comme le réclamait la France, et démissionne. Un départ sur fond de divergence entre formations confessionnelles concernant l'attribution de portefeuilles ministériels.
La disparition de Denis Tillignac, journaliste, écrivain, il était aussi éditeur intellectuel. Son dernier ouvrage, Le dictionnaire amoureux du général, était d'ailleurs paru cette année. Denis Tillignac a succombé à une crise cardiaque la nuit dernière à l'âge de 73 ans.
Il était viscéralement attaché à la Corrèze et avait été un des proches compagnons de route de Jacques Chirac. Il disparaît un an, jour pour jour, après l'ancien président, à qui il avait justement rendu hommage sur Europe 1 le 26 septembre de l'année dernière.
Je l'ai vu débarquer dans mon village, je me rappelle, un jour sous la neige, sous le préau. Il devait y avoir quatre élus. On m'avait dit un techno, un énarque pompidolien, ça n'avait rien qui fasse rêver un gamin de 20 ans. Puis j'ai découvert une espèce de cow-boy formidable. Dans les salles polyvalentes de nos petits villages de Haute-Corrèze, ben c'était carrément Elvis Presley à Las Vegas. Il générait une espèce, une chaleur, il avait... Tout de suite, on avait envie d'être de sa bande. Il créait, vous le voyez, 30 secondes, il créait une espèce d'intimité physique.
Denis Tillignac qui rendait hommage à Jacques Chirac avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
C'était Sophie Tussaud tout à l'heure 19h30 pour le Fil Info sur Europe 1. Un petit point météo, Valérie Darmon, pour ce dimanche avec un ciel qui reste bien agité.
Et oui, on a les retours pluvieux entre le nord, le centre, l'est du pays qui vont s'étendre à partir de notre déjeuner dominical au Limousin, au Massif central, à la région Rhône-Alpes. La bonne nouvelle, c'est que les pluies soutenues du matin vont se calmer petit à petit, mais elles vont rester quand même très présentes. Il va neiger toujours sur le Jura, sur les Alpes du Nord à partir de 1000 à 1300 mètres. Sur l'ouest de la France, la journée sera plus calme sous un ciel plus variable, comme aujourd'hui. Le soleil sera plus généreux près de la Méditerranée, toujours grâce à un fort mistral, à une forte tramontane qui souffleront en rafale jusqu'à 110 km/h. On attend également de fortes rafales sur les crêtes pyrénéennes, mais il ne sera plus question de vigilance orange puisqu'elles seront levées à 3h du matin. Près de la Manche, le vent va souffler aussi jusqu'à 100 km/h, donc sur les côtes, 60-70 dans l'intérieur des terres. Les températures, elles ne grimpent plus. Les minimales, elles seront particulièrement fraîches, entre 5 et 11 degrés du nord-ouest au nord, 2 à 7 du sud-ouest, à la façade est et jusqu'à Rhône-Alpes, et 10 à 13 sur l'extrême sud-est. Les maximales, elles ne vont pas dépasser 11 à 18 degrés, jusqu'à 23 sur le pourtour méditerranéen, grâce au soleil.
Merci Valérie. Le journal des sports, le retour de Julien Froment et ce choc qui vient de se terminer entre Saint-Etienne et Rennes.
Exactement, Anthony Péal, vous avez suivi le match pour Europe 1. Démonstration du stade rennais, clairement, il n'y a pas eu photo face à des verts bien pâles.
Oui, Rennes s'impose 3-0 dans un match dominé de A à Z par les Bretons. Les Rennais ont ouvert le score en première mi-temps de la tête sur corner, une réalisation signée du défenseur Aguerre. De retour des vestiaires, Nordin a cru égaliser pour les Verts, mais son but a été refusé par la VAR pour un hors-jeu. Et quelques minutes plus tard, Guirassy a permis aux Bretons de faire le break grâce à un geste acrobatique dans les 6 mètres de Moulin, le portier stéphanois. Unou a aggravé le score dans les dernières minutes de la partie. L'équipe ultra jeune de Saint-Etienne, avec 7 joueurs de moins de 23 ans au coup d'envoi, n'a finalement jamais réussi à trouver la solution. Score final 3-0, Saint-Etienne perd son fauteuil de leader, c'est Rennes qui le récupère.
Voilà exactement, Rennes qui devient donc leader avec un très beau parcours, hein. 4 victoires, 1 match nul en 5 rencontres, des Rennais décidément très en forme.
Ouais, et ce soir c'est l'OM qui retrouve le stade Vélodrome, Julien, contre l'FC Metz.
Ouais, après une défaite logique contre Saint-Etienne et un nul assez chanceux face à Lille, l'OM doit réagir face au 17e de Ligue 1 dans un Vélodrome quasi vide, hein. La jauge a été réduite par le préfet des Bouches-du-Rhône à 1000 spectateurs, drôle d'ambiance pour le milieu de terrain, Morgan Sanson.
L'absence du public nous pèse, pour nous, mais aussi pour l'adversaire, parce que l'adversaire, quand ils ont le stade qui pousse pendant 90 minutes, bah c'est compliqué à un moment donné. Et nous, ça nous donne la force supplémentaire pour aller chercher les buts ou les points qui nous manquent. Ça fait déjà 2 matchs là, cette saison qu'on n'arrive pas à gagner à la maison. On se pose des questions, on essaye d'analyser ce qui va, ce qui ne va pas. Donc voilà, il y a toute une analyse qui est faite et on va essayer de régler ça samedi.
Et on va voir si l'analyse sera bonne de la part de Morgan Sanson de l'Olympique de Marseille ou MS. Un match à suivre ce soir donc à 21h sur Europe 1 avec Lionel Rousseau en studio et le duo Jean-François Pérez, Stéphane Frangy au commentaire.
Évidemment, et avant le match de ce soir, on vous retrouve. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Face aux auditeurs avec un invité exceptionnel, le patron du foot français.
En effet, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, va répondre aux questions de nos auditeurs. On aime ce concept, nos auditeurs qui posent des questions et nos auditrices aussi d'ailleurs à des invités. C'est le cas de Noël Le Graët qui va notamment donner son sentiment sur la situation du football français qui se détériore notamment par le comportement et le truchement des joueurs de foot. Référence à PSG et Marseille, évidemment, le classique avec Neymar et Alvaro. Il parlera aussi des incontournables dossiers Benzema, Rabiot en équipe de France et l'élection future de la présidence de la Fédération française de football. Incarne-t-il encore l'avenir? C'est la question que poseront les auditeurs ce soir. On rappelle qu'il a 79 ans, Noël Le Graët. Incarne-t-il encore l'avenir du football français? Vous le saurez ce soir et peut-être sa réponse dans notre émission à partir de 20h.
Il pense à d'autres pour incarner un autre avenir. En tout cas,
Didier
ce
Deschamps
sera évoqué
fait
aussi.
Partie
hein.
De ceux qu'il aimerait
voilà,
adouber.
Voilà, ces petits chouchous. Merci beaucoup Lionel Rousseau. Tout à l'heure, 20h.
Ouais, et un tout petit mot encore de football. Un petit événement en Ligue 2, c'est Toulouse qui a enfin gagné un match. Cela faisait 11 mois que les Haut-Garonnais attendaient ça. Donc Toulouse Towin face à Auxerre, 3-1.
Dans le reste de l'actu sportive, rugby et puis les sports auto.
Oui, avec pas de finale franco-française malheureusement en Coupe d'Europe. Le Racing 92 qui a battu les Saracens s'affrontera le 17 octobre prochain à Bristol. L'équipe d'Exeter qui elle est bien éliminée les Toulousains 28-18. Et puis dans l'autre compétition, le Challenge européen, eh bien Toulon tentera aussi d'aller en finale. Le RCT affronte ce soir en demi-finale les Anglais de Leicester. Enfin les sports mécaniques en MotoGP. Le Français Fabio Quartararo partira demain en deuxième position du Grand Prix de Catalogne. C'est l'Italien Morbidelli qui a été le plus rapide et à noter aussi que le vétéran Valentino Rossi partira en troisième place. Quant à la Formule 1, en Russie, à Sochi, Lewis Hamilton sur Mercedes Impériale. Le Britannique signe la pole position, le meilleur temps du circuit. Et s'il venait à gagner demain, eh bien, il égalerait un certain Michael Schumacher avec 91 victoires.
Ouf, c'était l'actu des sports. Julien Froment, Lionel Rousseau, merci à tout à l'heure messieurs, 20h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h17, merci d'écouter Europe 1 Soir, au lendemain de l'attaque à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Un homme et une femme aveuglément pris pour cible par un homme en garde à vue qui se dit né au Pakistan et âgé de 18 ans. Bonsoir Manuel Valls.
Bonsoir Wendy Bouchard.
On en sait peu encore sur les motivations du principal suspect, sur ses réseaux, mais un, il assume son acte, il le dit, il dit avoir frappé parce qu'il était en colère après la republication des caricatures dans Charlie Hebdo. Ça suffit à qualifier cela d'attaque islamiste pour vous, Manuel Valls?
Oui, sans doute. Soyons prudents. Laissons les enquêteurs sous l'autorité de la justice avancer. Mais il me semble que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu raison hier soir de qualifier ainsi. Il y a une guerre de doute.
De qualifier ainsi, de se rendre sur place quelques minutes après cette attaque en compagnie du Premier ministre Jean Castex. De son côté, l'Élysée dit ne pas faire de déclaration. Emmanuel Macron ne s'exprimera pas sur le sujet. Est-ce que vous comprenez la posture du président de la République, Manuel Valls?
Oh, moi, j'ai plus tendance à commenter la communication des uns et des autres. Mais ce qui me paraît important, et surtout pour les Français, c'est que l'exécutif soit mobilisé. D'abord, en attendant encore une fois les résultats de l'enquête, mais face à ce qui est une attaque terroriste, dans un lieu symbolique tout de même, c'est la rue où il y avait les anciens locaux de Charlie Hebdo, où il y a cette agence aussi de production, ces deux journalistes qui ont été blessés, je pense bien sûr à eux, enfin, c'est difficile de se mettre à leur place, qui avaient déjà été moins de l'attaque contre Charlie Hebdo en 2015, en plein procès Charlie Hebdo, charge symbolique et puissante, et l'oblige, le Premier ministre, le gouvernement, à parler, à agir, à rassurer, même si nous faisons face à des attaques terroristes depuis des années, que nous allons vivre pendant...
Manuel Valls, je voudrais rater un instant parce qu'on vous entend malheureusement très mal. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour que la liaison soit plus claire ce soir. Ce qui inquiète dans ce profil, dans ce parcours, c'est qu'on a une personne qui ne savait pas, pour autant il avait fait des repérages manifestement, mais que le journal avait changé d'adresse. Ça interroge sur le degré de préparation de cette attaque par rapport au fait de 2015. Ça interroge sur la personnalité de leurs auteurs également, Manuel Valls.
Mais nous faisons face à trois types de menaces, si vous m'entendez bien, Wendy Bouchard. La première, nous la connaissons, elle vient de Daesh ou d'autres organisations depuis la Syrie ou l'Irak, et malgré les coups portés contre ces organisations terroristes, elles ont toujours cette capacité de frapper. Regardez, Daesh est en train de se reconstituer grâce à la Turquie en Libye avec plusieurs milliers de djihadistes. Ensuite, il y a sans doute, et je suis prudent, parce que je ne suis plus aux responsabilités, donc je n'ai pas les informations, mais il y a sans doute aussi des groupes capables de frapper en Europe. Et puis enfin, il y a ces milliers de personnes radicalisées qui, d'une manière ou d'une autre, avec une forme d'engagement différente, dans nos quartiers, dans la rue, qui se sont, entre guillemets, éduqués, formés sur Internet ou en prison, peuvent frapper de cette manière. Ce lumpen terroriste, ce terroriste low cost, quand on l'a appelé, je n'aime pas beaucoup ces mots, mais il fait partie désormais de notre quotidien. C'est ce qui rend, évidemment, ces formes d'action particulièrement inquiétante, parce qu'on peut avoir à tout moment une attaque de ce type au couteau ou avec une arme ou une voiture ou un camion. Nous avons eu ces attaques. Rappelez-vous ce qui s'est passé par exemple au début de l'année à la préfecture de police de Paris.
Oui, or on ne peut pas tout sécuriser. On vit déjà en ce moment en plus de surcroît dans une politique sanitaire qui contraint nos libertés. Donc que nous reste-t-il face à un monde qu'on ne peut pas archi-sécuriser ? Notre action individuelle face à leurs actions individuelles, c'est ça aussi la société de vigilance telle que vous l'avez comprise du président de la République ?
Mais il y a l'action de façon des forces de sécurité, des services de renseignement, un travail minutieux et qui nous permet d'ailleurs d'éviter fort heureusement de nombreux attentats, la coopération avec les autres services. Mais nous allons vivre, Wendy Bouchard, longtemps avec cela. On m'a reproché il y a quelques années d'avoir dit, quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, on m'a reproché d'avoir dit à des jeunes lors d'un débat qu'ils allaient vivre avec cette menace. Nous allons vivre avec cette menace parce qu'il y a là, dans notre société, en notre sein, au sein de la communauté nationale, des gens qui peuvent frapper. Oui, donc cela oblige, tout en respectant l'état de droit, à beaucoup de vigilance et puis à ne pas avoir de naïveté, ne pas faire preuve de naïveté. Regardons de près ce qui se passe dans nos prisons et les sorties de prison, pas seulement des terroristes condamnés, mais tout simplement de ceux qui s'y radicalisent. Puis enfin, moi, je crois que c'est très important que toute la société se mobilise. Vous savez, on s'habitue, là, on parle de nouveau. Moi, j'ai vécu ça avec beaucoup de douleur, comme tout le monde, avec beaucoup d'émotions. Mais c'est du déjà vu, non, ce qui s'est passé hier, avec les mêmes images, les mêmes mots, les mêmes déploiements des responsables gouvernementaux. Et puis, ça passera, parce qu'il y a une actualité, parce qu'il y a d'autres priorités. Non, ça ne peut pas passer. Vous avez Zineb Razaoui qui vit protégée, vous avez la directrice des relations humaines de Charlie Hebdo, Marika Brett qui a dû partir de chez elle, la rédaction de Charlie Hebdo qui vit protégée, qui travaille secrètement, vous avez une militante laïque comme Zora Bitan qui est protégée, enfin ça fait beaucoup de monde, plus les mots antisémites qui sont vus par des millions de personnes comme avec ce rappeur odieux et son discours néo-nazi. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la société, dans la jeunesse notamment. Il y a ces sondages qui nous disent que, minorité certes, mais de jeunes musulmans français considèrent que la loi de l'islam est plus importante que la loi de la République. Donc ça demande une mobilisation puissante.
Oui, qu'est-ce que vous dites, Manuel Valls ? Est-ce que la société s'est relâchée ou s'est-elle radicalisée ?
Elle s'est, les deux, une partie très minoritaire s'est radicalisée, bien évidemment, mais la vigilance se relâche parce que c'est très difficile dans une démocratie de vivre avec cette menace. Et le terrorisme, le djihadisme, désignons clairement d'ailleurs notre ennemi, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, les salafistes, les frères musulmans, veulent nous frapper pour attaquer la laïcité, notre modèle, mais pour nous détruire et pour détruire la démocratie. Donc face à cela, il faut une remobilisation autour de la nation, des valeurs républicaines. Il ne faut rien lâcher, il ne faut rien excuser. Il faut dénoncer ceux qui sont complices à gauche, notamment dans la gauche politique ou médiatique ou syndicale de cet islam politique. Donc c'est un combat culturel, politique, idéologique, profondément républicain, profondément noble, qu'il faut mener.
Est-ce qu'il faut aussi que la société soit davantage à l'écoute des lanceurs d'alerte ? J'allais dire, je recevais la semaine dernière Zined El Razoui, je recevrai bientôt Mohamed Sifaoui. Chaque fois que je reçois ces porteurs de messages qui sont peut-être minoritaires dans leur propre camp, on reçoit des insultes, des menaces, comme si ces gens-là devaient être interdits d'antenne. Qu'est-ce que ça vous dit sur cette liberté de presse qu'on brandit par ailleurs et régulièrement et à juste titre, Manuel Valls ?
ces deux personnalités que vous avez citées sont protégées et régulièrement menacées, oui. Mais ils parlent, ils sont courageux. Puis il y a tous ces intellectuels comme Elisabeth de Badinter, comme Laurent Bouvet, comme Jules Favreul, comme Caroline Fourest qui s'expriment. Les médias se sont mobilisés cette semaine. Il faut continuer, il ne faut rien arrêter. Il faut poursuivre tous ceux qui insultent et menacent, qui viennent de l'extrême droite, de l'extrême gauche, ou qui viennent évidemment de l'islamisme politique. Il faut s'interroger sur l'interdiction du salafisme. Il faut faire vivre la laïcité partout dans l'espace public. Cette intransigeance au nom d'une laïcité qui apaise et qui est notre bien commun, elle me paraît plus que jamais nécessaire. Restons debout, ne soyons pas apeurés, n'ayons pas peur de combattre ce qui est ce fascisme de ce début de XXIe siècle.
Vous portez la voix régulièrement et de plus en plus, et je vous en remercie, sur ces sujets fondamentaux pour notre République. Si vous êtes appelé aux responsabilités, vous irez aussi avec la même intensité en France, Manuel Valls.
Mais ma responsabilité, c'est de parler. J'avais raison, Wendy Bouchard, il y a 5 ans, quand j'évoquais ces choses-là. On m'a reproché à l'époque de diviser la société. Celui qui est président de la République aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de respect, mais il y a 5 ans, parlait d'un terreau pour chercher à comprendre ce qui se passait. Non, la société, elle est divisée, pas seulement la nôtre, parce qu'il y a ceux qui veulent la diviser. Ce ne sont pas nous, les républicains, les laïcs, les démocrates, qui combattons cet islamisme, qui la division. Ce sont eux qui veulent frapper. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis et d'adversaires. Et donc moi, je continuerai à parler. Je ne cherche aucune responsabilité. Je les ai accomplis. Je pense à ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui. Je sais que c'est dur, difficile. Il y a une sacrée responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Mais parce que les Français le demandent, il faut être intransigeant. Il ne faut plus de compromis avec cet islamisme, avec cette religion de la haine. Et je le dis d'autant plus parce que c'est le meilleur moyen de bien faire la séparation entre cet islamisme et l'immense majorité de nos compatriotes musulmans qui sont pris en otage par cette idéologie politique et qui veulent pratiquer évidemment un islam de paix.
Ne pas perdre de temps pour lutter contre les séparatismes, c'est aussi votre message. Manuel Valls sur Europe 1, merci. Merci de votre présence, merci beaucoup.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Le journal de l'environnement.
Voici maintenant sur Europe 1 le journal de l'environnement. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Les mobilisations de jeunes pour le climat, nous en parlions, reprennent cette semaine. Et il y a une figure émergente en France. Son nom, c'est Camille Etienne. La presse de sa région natale, d'ailleurs, la surnomme la Greta Thunberg savoyarde.
Oui, même si ce n'est pas une ado comme Greta, mais une jeune femme de 22 ans qui a grandi en Savoie, en pleine nature. Camille Etienne, c'est une activiste écologiste. Elle est porte-parole du collectif On est prêt. Et elle a une façon assez novatrice de faire passer ses messages. Elle se met beaucoup en scène de manière très esthétique, avec de belles photos, travaillées, joyeuses. Souvent, ce sont des portraits d'elle. D'ailleurs, il y en a un qui a été censuré par Instagram parce qu'elle était seins nus. De jolies vidéos. C'est une youtubeuse. Elle a aussi 35 000 followers sur Instagram.
Quel rapport avec le climat, seins nus? Vous allez nous expliquer.
Alors, parce que elle se met en scène, en fait, dans la nature, de manière la plus simple possible. Elle est très nature.
D'accord.
Donc, voilà, elle a aussi un côté
naturiste
féministe.
Et naturaliste. D'accord.
Voilà. Et elle mobilise donc ses followers sur des sujets très concrets, comme il y a quelques jours, au moment où le Parlement européen s'apprêtait à voter une résolution cruciale sur le climat. L'enjeu, c'était quel nouvel objectif de réduction des gaz à effet de serre est-ce qu'on va se donner? On était à moins 40% d'ici à 2030 et les écologistes, comme Camille, espèrent à ce moment-là qu'on peut pousser jusqu'à moins 60, pourquoi pas moins 70%.
Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez vous engager au-delà de simplement faire votre part en achetant une gourde ou en mangeant moins de viande. Et bien aujourd'hui, on a une idée. Alors promis, c'est pas un crowdfunding ni une énième pétition. Ou encore moins pour vous annoncer qu'on va mourir après-demain parce que je ne sais quel glacier est en train de fondre.
Alors qu'est-ce qu'elle propose comme mode d'action, cette jeune femme?
Alors là, en l'occurrence, ce jour-là, c'est d'inonder les boîtes mail des députés européens qu'il faut faire changer d'avis. C'est toujours très ponctuel,
d'accord.
C'est au besoin, au cas par cas.
Mm-hmm.
Et vous l'avez peut-être suivi, finalement, l'Union européenne a voté un objectif de moins 55%.
Donc c'est du lobbying.
Voilà, exactement. Du lobbying. Il y a différentes façons de porter ces sujets.
Oui.
Et elle a du culot, Camille Etienne. Elle ne se démonte jamais. Fin août, par exemple, elle est montée à la tribune de l'université d'été du MEDEF face à un parterre de grands patrons. Ça donnait ça.
Ce modèle-là, il ne va plus marcher très longtemps. C'est certain. Nous, on en a déjà marre. Peut-être ça voudra dire travailler moins, mais avec un peu plus de sens. À vous de voir.
Alors, vous êtes ici quand même à la REF du MEDEF. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité.
Ouais, rire et applaudissements.
Ouais, on entend rire et applaudissements pour l'intervieweuse, hein, pas pour Camille Etienne, évidemment.
Oui, Camille Etienne qui a fait aussi une vidéo qui est devenue virale au moment du déconfinement.
Oui, vous l'avez peut-être vu, c'est une vidéo où elle se filme avec une danseuse contemporaine derrière, dans un décor de montagne. Ouais. Ça s'appelle Réveillons-nous. Vidéo dans laquelle elle tire les leçons du confinement et elle appelle à changer nos comportements. Elle, c'est une sorte de porte-parole des jeunes. Cette vidéo a été vue 350 000 fois.
Voilà, comment mettre en scène aussi cette envie de réveil collectif. Camille Etienne, que vous pouvez suivre pour le coup sur les réseaux sociaux. Merci Virginie Salmen et à demain pour le journal de l'environnement.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h32, voici le fil info, Sophie Tussaud.
Les chiffres de l'épidémie de Covid-19, plus de 14 400 nouveaux cas de contamination ont été détectés ces dernières 24 heures. 39 personnes ont succombé au virus. Un sursis de 48 heures pour les cafés, bars et restaurants de la métropole d'Aix-Marseille. Leur fermeture interviendra finalement demain soir. L'adjointe au maire de la cité phocéenne, Samia Ghali, dénonce la directive et estime que si Marseille est en danger, il aurait mieux fallu un reconfinement général. Le principal suspect de l'attaque au hachoir à Paris assume son acte. Il visait spécialement Charlie Hebdo. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'aurait pas supporté la republication des caricatures du prophète Mahomet. 9 personnes sont actuellement en garde à vue. Donald Trump a fait son choix. Il annoncera ce soir à 23h heure française la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême pour succéder à Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière. Vu la disparition de Denis Tillignac à 73 ans, écrivain, journaliste, intellectuel de droite, il avait été également un des proches compagnons de route de Jacques Chirac. Denis Tillignac s'éteint un an, jour pour jour, après son ami.
Merci Sophie.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, dans l'ombre des grands chefs.
Ah, c'est un rendez-vous que vous attendez. Côté cuisine, côté figues ce soir, on vous retrouve comme chaque samedi, Pierre Herbulot avec le chef de la soirée.
C'est la fin de la saison de la figue, alors profitons-en, comme dirait notre ami Laurent Mariotte. Surtout avec la superbe recette que nous propose Benoît Jabouille. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.
On a une première préparation devant nous, Benoît.
Donc des figues qu'on a coupées juste sur le dessus. Donc on va cuire avec de la cassonade, des zestes d'orange, un peu de beurre et une demi-gousse de vanille. Donc tout ensemble.
Voilà, on recouvre nos figues.
Donc on va les cuire pendant 15 minutes à 160 degrés. Voilà. Là, on va réaliser une crème anglaise, uniquement à base de crème liquide, et après qu'on fera monter au mascarpone. Donc, dans cette crème, on va venir infuser donc, nos feuilles de figuier ciselées et notre vanille grattée, fendue. Voilà. Donc, on met tout ça infusé ensemble, on va filmer et on va laisser infuser pendant 12-15 minutes. En parallèle, on va commencer à préparer notre sablé en kadaïf.
C'est ces petits filaments qu'on voit dans les pâtisseries maghrébines.
Qu'on appelle aussi cheveux d'ange, voilà, qu'on peut trouver un peu partout dans les épiceries orientales ou ce genre de magasin.
Alors comment on les prépare? On les a devant nous.
On a effiloché la kadaïf, donc on va venir la coller ensemble avec un mélange de beurre fondu et de miel.
Là, il s'agit juste de badigeonner avec un petit pinceau, quoi, fait pour, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc un peu généreusement, mais pas trop quand même. Alors, on va venir les étaler un tout petit peu plus finement entre deux feuilles sulfues à l'aide d'un rouleau pour avoir vraiment une finesse un peu plus agréable en bouche.
Donc ça cuit.
Alors là, on va le cuire donc à 160 degrés pendant 10 minutes.
On retourne voir nos figues qu'on a mis au four tout à l'heure.
Nos belles figues rôties qui commencent à dégorger de leur jus.
Elles ont l'air fondantes et ça sent bon là. Ça sent, on a des parfums de figues, de sucre. Ça donne envie.
On vient les rajouter donc dans notre mixeur et on va les mixer à chaud.
Magnifique.
Donc ça, on va le débarrasser et réserver au frais. On va le réutiliser tout à l'heure.
On retourne à notre crème anglaise à la feuille de figuier. On filtre d'un côté la crème infusée et de l'autre côté, on va fouetter les jaunes d'œufs et le sucre, c'est ça?
Exactement. Donc on va blanchir notre crème portée à ébullition qu'on vient verser sur notre mélange jaune, sucre, blanchi. On mélange un petit peu.
Et on met tout dans la casserole.
On met tout dans la casserole et on va monter le tout à 85 degrés. On va la faire monter au batteur.
On peut y aller.
À fond les balles.
Et là, on rajoute de la crème mascarpone pour la gourmandise.
Donc voilà, notre crème bien lisse.
Elle est aérienne là, c'est magnifique.
Là, on a vraiment une belle texture soyeuse.
On passe au dressage?
On va passer au dressage.
Notre
tuile donc en kadaïf, notre marmelade de figues rôties, notre crème à la feuille de figuier.
On entend que ça croustille.
Moi, j'adore. On se balade au milieu des figuiers, on a cette odeur de figue extrêmement présente, ça croustille, c'est fondant, tout ce qu'on aime dans un dessert.
Faut laisser parler son imagination.
Merci beaucoup, chef.
Merci beaucoup, au revoir.
Chef Benoît Jabouille, pâtissier du restaurant étoilé La Réserve à Beaulieu-sur-Mer avec cette déclinaison de figues. Recette à retrouver sur europe1.fr. Pierre Herbulot dans l'ombre des grands chefs.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, une chanson dans la tête.
Il est 19h39 sur Europe 1. Voici votre rendez-vous musical avec notre spécialiste de la chanson française. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
L'artiste dont nous parlons est parti mercredi et pour ne pas tourner trop vite les pages un peu broyées par l'actualité, eh bien on se souvient encore
poisson,
de Juliette Gréco.
Un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau.
Légère et profonde, fantasque et rebelle, elle a exporté Juliette Gréco, la chanson française, à travers le monde, Fabien.
Effectivement, Wendy, une carrière exceptionnelle avec des titres inoubliables et de grandes rencontres, souvent amoureuses, hein, qui ont jalonné sa vie. Alors Jean-Paul Sartre l'avait pris, bien sûr, sous son aile. Boris Vian était l'un de ses meilleurs amis. Mmh. Et surtout, elle a été la première à chanter Brel et à rendre populaire Léo Ferré.
T'es toute nue sous ton poule, y'a là qu'est ma jolie moule. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie moule.
Gréco et sa poésie, voilà ce qu'elle me confiait sur Europe 1 il y a 5 ans. Écoutez.
Dans chaque chanson, il y a un morceau de moi, ou grand ou petit. Je suis la servante de mes seigneurs. Et mes seigneurs, ce sont les écrivains, ce sont les musiciens, ce sont les poètes.
Accordez, accordez, accordez-nous. L'aumône à l'accordez, l'accordéon.
Fabien Lecoeuvre, dans cette chronique sur Europe 1, vous retrouvez toujours des dates clés dans la vie d'un artiste. Et en l'espèce pour elle, pour Juliette Gréco, ce jour où elle rencontre sa professeure de français.
Absolument, Wendy, une certaine Hélène Duc qui va lui faire découvrir Saint-Germain-des-Prés. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, la maman de Juliette a été une grande résistante dans le Sud-Ouest. Hélas, en 1943, elle est capturée par la Gestapo et déportée avec sa fille aînée Charlotte à Ravensbrück. Et la petite Juliette échappe à la déportation, mais elle est emprisonnée à la maison d'arrêt de Fresnes, à Paris. Une fois remise en liberté, Juliette Gréco se retrouve seule dans la capitale, sans famille, livrée à elle-même. Âgée d'à peine 16 ans, Juliette se retrouve alors sur un banc de l'avenue Foch à Paris où on l'a ramenée. Elle n'a pas un centime en poche, juste un ticket de métro en poche. Et c'est à ce moment-là qu'elle retrouve une certaine Hélène Duc qui a été sa prof de français à Bergerac. Et face au dénuement de la jeune fille, eh bien Hélène Duc lui propose de l'héberger chez elle, rue Servandoni, près de l'église Saint-Sulpice, à deux pas du quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Et, voilà.
Et cette rencontre, Wendy, change alors le destin de Juliette Gréco, qui évite ainsi de se retrouver sous les ponts de Paris.
Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, viennent dormir là tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur
Juliette Gréco et la jeune garde avec
Mélodie Gardot,
hein,
bah oui,
cette chanson.
Oui, bien sûr.
En 1949, on va parler de ses amours, elle tombe amoureuse de Miles Davis, Juliette Gréco. C'est un amour qu'elle a assumé toujours, hein,
oh là
et envers et contre tout.
Un amour fulgurant et passionné, elle n'a que 22 ans. Et on est, quand en 1949, elle séduit ce jeune trompettiste noir américain surdoué de 23 ans, venu à Paris pour participer à un festival de jazz à la salle Pleyel. Et c'est la femme de Boris Vian qui les présente. Une histoire qui ne durera que 33 jours car Miles Davis refuse de la faire souffrir car il est noir et qu'à l'époque, les couples mixtes ne sont pas très bien vus en France et encore moins aux USA où la ségrégation est encore hélas très présente. Alors une histoire que Miles Davis n'a jamais oubliée de sa vie, car en 1991, quelques temps avant de disparaître, il est même venu à Paris pour revoir une dernière fois Juliette Gréco.
Incroyable, hein. Elle racontait à Juliette qu'un jour elle arrive dans un grand hôtel à New York, le patron la connaît très bien, et voit arriver derrière elle Miles Davis. Finalement, il lui dit qu'il n'a plus de place, qu'il n'y a plus de chambre. Alors Juliette Gréco demande la main de ce patron d'hôtel, elle lui ouvre la main, elle crache dedans, elle la referme et elle part. C'est
magnifique.
De Gréco, ça.
Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien.
Ces amoureux, ces autres hommes qui ont joué un rôle essentiel dans sa carrière.
Oui, bien sûr, Wendy, notamment Guy Béard, un soir en 1958, alors qu'il se produit sur la scène du Port Salut à Paris. Juliette Gréco, accompagnée de Sacha Distel, son fiancé du moment, viennent applaudir le jeune Guy Béard. Immédiatement, la muse de Saint-Germain-des-Prés souhaite reprendre quatre chansons de Guy Béard, dont le titre « Chandernagore ». Alors, une réelle amitié entre Juliette Gréco et Guy Béard s'installe. Ensemble, ils partagent la même vision des choses, de l'amour et de la vie. Et puis un jour, assis seul à la terrasse d'un café du boulevard Saint-Germain à Paris, Guy Béard repense à son histoire d'amour avec sa première femme Micheline. Et il n'en faudra pas plus à Guy Béard pour écrire en moins d'une heure, tenez-vous bien, et à quelques pas de la rue du Four
toujours
à Paris,
Saint-Germain, hein,
voilà, la chanson « Il n'y a plus d'après », Juliette Gréco l'enregistre dans la foulée et en fera un immense succès international.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois.
Alors, on parlait de Guy Béard. On ne peut pas évoquer, évidemment, la carrière de Juliette Gréco sans parler de Serge Gainsbourg, Fabien Lecoeur.
Mais oui, en 1959, après 10 ans de carrière, Juliette est alors au zénith du succès, aussi bien au théâtre, au cinéma et dans la chanson. Alors, fraîchement revenue des USA, où pourtant une carrière prometteuse d'actrice s'ouvrait à elle, Juliette souhaite enregistrer de nouvelles chansons pour faire sa rentrée. C'est alors que Jacques Canetti, pilier incontournable de la musique de l'époque, lui parle d'un jeune et talentueux musicien qu'il a découvert, Serge Gainsbourg. La chanteuse accepte de rencontrer Serge. Rendez-vous est donc pris chez elle au 33 rue de Verneuil, dans le magnifique hôtel particulier qu'elle s'est acheté après avoir gagné, tenez-vous bien Wendy, 6 millions de francs au casino un soir de solitude.
Incroyable.
Serge Gainsbourg est très impressionné, non seulement par le lieu, mais surtout par la femme star qu'il a en face de lui. Et bien sûr, Serge fait ensuite écouter à Juliette quelques-unes de ses compositions, et la chanteuse est très attentive et sensible à cette musique. Elle avouera « Ce qui m'a plu dans ses chansons, c'est lui. C'est un homme passionnant, séduisant et d'une grande tendresse. » Quelques jours plus tard, elle enregistre alors « La Javanaise ».
Ne vous déplaise en dansant la Javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Magnifique Juliette Gréco, qui a toujours défendu son statut de femme libre, moderne, indépendante, vraiment.
Oui, c'est aussi parce que sa mère vivait en couple avec une femme. Elle a réalisé justement qu'en amour, rien ne devait être interdit. Alors, dans la seconde moitié des années 60, Juliette Gréco est devenue une grande dame de la chanson française, dont le répertoire met souvent en avant la femme dans sa modernité, dans son indépendance. Il faut rappeler qu'elle a été l'une des premières à faire de la chirurgie esthétique en se faisant refaire le nez à plusieurs reprises.
Et en assumant. Hein.
Et oui, une première fois à la fin de l'année 1948, ce qui est quand même très tôt.
Oui.
Puis, en 1956, une opération que lui a offert Edith Constantine. Je ne sais pas s'il y a une histoire entre eux, mais enfin, on le saura peut-être bien plus tard. Juliette a toujours assumé en tout cas ses opérations. Et au début de l'année 1967, la chanteuse qui cherche des chansons pour un nouvel album s'adresse à une célèbre compositrice originaire de Roubaix, Gaby Verloor, qui a travaillé notamment avec Patachou, Bourville et Nino Ferrer. Et à l'issue d'un premier rendez-vous chez Juliette Gréco, Gaby Verloor repense à une chanson qu'elle avait composée quelques temps plus tôt à la demande d'un ami parolier, Robert Niel. Et cette chanson a pour titre « Déshabillez-moi ». Et Robert Niel l'avait écrite pour une amie stripteaseuse dont il était très amoureux. Alors Juliette Gréco est séduite par ce thème audacieux et sensuel et accepte immédiatement Wendy de l'interpréter.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Déshabillez-moi de Juliette Gréco, elle qui fut l'amie des auteurs, des poètes, on en parlait, Sartre, Prévert, Desnos, et qui s'est toujours retranchée de manière très pudique derrière des vêtements noirs. Ouais, hein. Elle avait cette présence sur scène avec ce jeu de mains que vous retenez tous à l'esprit. Elle s'en expliquait à notre micro justement, ses longues tuniques noires, c'était en 2015 toujours, écoutez.
Le corps, je le laisse à l'imagination. Je préfère ça, de beaucoup. Moi, je suis un tableau noir sur lequel on écrit. Je suis un sapin qui peut devenir Noël, ou alors qu'on brûle, ça dépend.
Je vous aime.
Merci Juliette Gréco de nous avoir fait tant rêver. On continuera d'écouter vos chansons. Merci Fabien Lecoeuvre de nous avoir raconté son destin. Juliette Gréco qui sera inhumée le 5
Absolument,
octobre
à 14h30
à Saint-Germain-des-Prés, Absolument. Qui vivait entre Paris et Ramatuelle. Et son amie Jacqueline Franjou, qui l'a beaucoup aidée ces dernières années, qui était avec elle régulièrement au Festival de Ramatuelle.
Une belle personne.
Oui, nous en parlera le 4 octobre sur Europe 1. Demain, on se retrouve, Fabien Lecoeuvre.
On se retrouve demain. Je vous parlerai des chansons avant-gardistes parlant d'homosexualité.
Comme ils disent.
Entre autres, comme ils disent, bien sûr.
Merci beaucoup, Fabien Lecoeuvre. Je vous laisse dans ce grand journal avec Philippe Legrand. C'est l'entretien de Paris Match et d'Europe 1. Il reçoit ce soir Claude Lelouch.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
19h52, une date, une histoire. Chaque samedi, une personnalité se souvient d'un fait qui a marqué notre actualité pour Europe 1 et Paris Match. On vous écoute, Philippe Legrand, avec votre invité. Bonsoir.
Bonsoir, Wendy. Bonsoir à tous. Retour ce soir dans les années 60, on y fait la révolution tranquillement avec la mode qui ose la mini-jupe, plus sévèrement avec mai 68 qui ne fait pas dans la dentelle, sous les pavés, la plage, les sexties s'amusent, la création se libère, les barricades tombent, une nouvelle société se dévoile, comme à Woodstock. Bonsoir Claude Lelouch.
Bonsoir.
Vous êtes le cinéaste de l'amour et vous avez choisi de revenir ce soir sur un certain 27 mai 1966, une date personnelle entrée dans notre histoire, la date de la sortie au cinéma d'un homme et une femme. Le film défile devant nous. Dernière séquence au restaurant. Extrait.
Qu'est-ce que je prends ?
Je sais pas.
J'ai pas faim.
Vous voulez une grillade ?
Oui, je crois que c'est mieux. À quelle heure êtes-vous parti hier de Monte Carlo ?
Je suis parti.
Vous ne prenez rien pour rentrer ?
Non, merci.
Je crois qu'il n'est pas content. On n'a pas pris assez de choses, non ?
Vous voulez qu'on lui fasse plaisir ? Garçon !
Monsieur ?
Vous avez des chambres ?
Vous avez des chambres. Vous reconnaissez évidemment ce moment, cette scène au restaurant Claude Lelouch, ce 27 mai 1966. Vous avez choisi cette date, mais finalement, elle vous échappe, parce que ce film, c'est celui d'une époque.
Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai ma vie qui a basculé en une seconde, vous voyez ce que je veux dire. Au moment où cette palme d'or arrive, au moment où le film sort, tout ce qui était difficile et d'un seul coup devenait simple. J'ai Malraux qui me téléphone en personne, qui était le ministre de la Culture, qui me dit « Je viens de voir votre film ». Il y avait une façon de filmer avant ce film, il y aura une façon de filmer après. J'ai le Malraux qui me dit « je veux montrer le film à De Gaulle ». Une semaine après, je me retrouve à présenter le film à l'Élysée entre De Gaulle et sa femme. Donc d'un seul coup, le gamin de Paris que j'étais, qui avait grandi au boulevard de Strasbourg, se retrouve dans des endroits que je n'imaginais pas du tout. Donc d'un seul coup, c'est le vertige absolu et... C'est vrai que ces années 60 ont bouleversé évidemment ma vie et ont bouleversé la vie de pas mal de gens. C'est-à-dire qu'il y avait une folie absolument incroyable. Voilà. Et donc, c'est vrai que je ne peux pas oublier cette période qui fait qu'en 24 heures, ma vie a changé, a été bouleversée et que... Le monde entier s'est intéressé à ce film. J'ai reçu des milliers de lettres d'hommes et de femmes qui ont été voir le film, qui me disaient « ce film m'a permis de retrouver ma femme », d'autres de... Voilà, donc d'un seul coup, j'étais dépassé par l'événement complètement. Nous, on pensait avoir fait un bon film, on pensait pas qu'on avait fait un film qui allait... changer les codes de l'amour, que la musique Shabadabada ferait le tour du monde plusieurs fois. Je souhaite à tout le monde de vivre un tel miracle, parce que on pouvait pas prévoir, en écrivant cette histoire d'amour, que d'un seul coup, la terre entière s'identifierait à cette histoire d'amour. J'ai Woody Allen m'a appelé au téléphone à l'époque pour me dire que ce film allait changer sa façon de filmer. Enfin, c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'habituer à passer du chaud au froid, du jour à la nuit. Et tout ça en 24 heures, vous voyez ce que je veux dire, parce que les événements se sont précipités. 8 jours avant, j'étais au bord de la faillite, et 8 jours après, je pouvais m'offrir un hôtel particulier où j'ai construit les films 13 et la maison du cinéma.
Vous avez évoqué le général de Gaulle à l'instant, qui veut absolument voir, sur une invitation d'André Malraux, ministre de la Culture, voir votre film. Comment, dans cette époque-là, de ces années 60-là, vous avez senti, perçu le général que vous avez retrouvé à l'Élysée ?
Écoutez, il a regardé le film. Madame de Gaulle avait les larmes aux yeux et lui, il voulait savoir la race du chien. C'était complètement surréaliste. J'ai bien senti qu'il n'était pas dans le film. J'ai bien senti ça. Donc, mais il est probable que lui-même devait ressentir inconsciemment ce qui allait arriver dans l'année qui suivait, quoi. Et c'est vrai qu'il était arrivé à un moment où le public était en train de, après l'avoir adoré et aimé, était en train de le rejeter. Il ne faut pas oublier les slogans dans la rue, 10 ans ça suffit, 10 ans ça suffit. On a foutu à la porte le héros de la guerre.
Claude Lelouch, vous avez fait ce choix du 27 mai 1966, que vous nous racontez derrière Un homme et une femme, votre film qui a fait le tour du monde, le cinéma toujours et encore. Vous partez tourner en mer, c'est une première ?
Je pars effectivement dimanche. J'ai très envie, avec ce 50e film, de faire la fête avec moi-même, vous voyez, de me souhaiter moi-même un bon anniversaire. Dans un an, on pourra peut-être assister à la sortie du film. Voilà.
Merci Claude Lelouch de nous avoir raconté ce soir sur Europe 1, ce 27 mai 1966. Bon vent, bon voyage, vous qui allez prendre la mer pour un nouveau film. Peut-être dans le sillage, on entendra Shabada Bada, cet air qu'on a en tête. Merci encore Claude Lelouch.
Au revoir, merci.
C'était une date, une histoire avec Paris Match sur Europe 1. Merci d'avoir suivi ce 18-20. Merci à Rémi Duprat d'avoir réalisé cette émission. Valérie Danan et Naïma Benchemann pour la programmation. Merci Fabien Lecoeuvre pour cet hommage à Juliette Gréco.
Merci
à réécouter
vous.
Et à transmettre. On se retrouve demain dès 18h. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. Bonne soirée. Je vous laisse avec Sophie Tussaud pour l'info dans 2 minutes.